Bien. Il est quelle heure ? 8h05, les 5 minutes habituelles. Je déclare donc la séance ouverte. Nous allons procéder tout de suite à l'appel nominatif. Andy Jean.
Présent.
Arnaud Michel, présent. Arnaud Odile.
Présent.
Barbier Maria Rosaria.
Présente.
Barouin Dolores.
Présent.
Biez Michel, absent. Pouvoir Lisiane Grosbon. Baumler Laurent.
Présent.
Brouillard René.
Présent.
Carpentier Annie.
Présente.
Clos Marie. Absente. Pouvoir à Odile Arnoux. Poulet Dominique. Absente. Pouvoir à Patrick Fleury. Cornille Jean-Jacques.
Présent.
Dumont Laurence. Absente. Pouvoir à Laurent Baumler. Fagot Edwige.
Présente.
Fleury Patrick.
Présent.
Fourdrin Stéphanie. Absente. Galzinski Nicolas. Absent. Grosbon Lisiane.
Présente.
L'ami Christophe.
Oui. Pouvoir de monsieur Nicolas Galzinski, s'il
vous plaît. Vous pouvez remettre le pouvoir.
Je vais le faire figurer avec la fiche.
L'ami Christophe, donc présent. Le Mercier Jean-Claude.
Présent.
Merlin Marie-France.
Présent.
Panier Francis.
Présent.
Rabé Philippe. Absent. Raguido Cécile. Absent. Pouvoir à Annie Carpentier. Raoui Ferrugia.
Présente.
Sauvage Patrick.
Présent.
Stéphane Patrick.
Présent.
Bien. Dix-neuf présents. Six pouvoirs. Donc il y aura donc 25 votants. La séance sera donc valide, le quota étant de 14 étant largement dépassé. Bien. Je vais maintenant procéder à la lecture de l'ordre du jour. Donc, nous procéderons à l'élection du secrétaire de séance. Après, nous aurons l'approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 17 juillet 2019. Le projet de charte du parc naturel régional Oise Pays de France, la carte d'achat public, l'avancement de grade, le taux de promotion, le tableau modification au tableau des effectifs, un règlement pour le service de restauration pour les personnes âgées, un sujet sur les jardins familiaux et communautaires, et puis un sujet sur le syndicat d'énergie de l'Oise, SE60, le rapport d'activité 2018. Et puis ensuite, les questions diverses. Voilà, donc on va commencer par l'élection du secrétaire de séance. Donc qui...
Laurent.
Oui, Monsieur Laurent Baumler se propose comme secrétaire de séance. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. On va donc passer à l'approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 17 juillet 2019. Questions, commentaires, Il n'y en a pas. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je profite de ce point, le sujet quasiment unique de ce procès-verbal des délibérations, c'est même pas quasi, c'était unique, était consacré à l'enquête publique sur l'extension du centre de transit de regroupement et de traitement des terres inertes polluées et polluées de la société Brésillon sur la commune de Longueuil-Sainte-Marie. Donc depuis cette date, on a eu le retour du commissaire enquêteur sur ces affaires-là. Donc on y a passé pas mal de temps sur ce dossier qui a dû se traiter au cœur de l'été. Je remercie René Brouillard pour la lecture attentive du dossier. En tout état de cause, c'est un dossier qui a... c'est un travail, pardon, qui a été particulièrement utile. Ceux qui veulent lire les comptes rendus complets, ils sont évidemment disponibles au niveau du secrétariat. Toujours est-il que, suite à cette réunion publique, à cette enquête publique, a aussi une rencontre que nous avons eue avec Brésillon, mais des dialogues. En fait, Brésillon, si vous vous souvenez, devait traiter au maximum 250 000 tonnes annuelles en transit. Donc ils ont renoncé à ça et ils ne traitent plus que 120 000 tonnes en transit annuel, réduisant ainsi considérablement les terrains dont ils avaient d'ailleurs besoin sur le Longueuil-Sainte-Marie. Ils renoncent aux activités relatives aux déchets dangereux. Donc tout ce qui était déchets dangereux, etc., il n'y aura plus de traitement, ni de dépôt, ni de transit sur la plateforme de Longueuil-Sainte-Marie. Concernant la traversée de Verberie, donc, je reprends les conclusions du commissaire enquêteur. Que soient mentionnées dans l'arrêté préfectoral les dispositions prises par l'entreprise Brésillon à l'effet d'interdire la traversée de la commune de Verberie par les poids lourds relevant de ses prestataires. Donc ça, ce sera effectivement dans l'arrêté préfectoral. Sachant que Brésillon nous avait dit lui-même qu'effectivement, il payait déjà en partie le péage. Ça représentait quand même 15% de la course. Donc c'était loin d'être négligeable. Mais jusqu'à présent, il ne demandait pas aux transporteurs le ticket de péage. Donc on leur a dit qu'il fallait absolument demander le ticket de péage aux transporteurs, ce qu'ils font dès maintenant. Et ensuite, c'est un document que je ne connaissais pas bien, un certificat d'acceptation préalable qu'ils doivent faire avec les sociétés qui sont en charge des transports de ces terres. Et ce qu'ils nous disent, c'est que, je cherche, pareillement aujourd'hui, le certificat d'acceptation préalable émanant de Brésillon contient un schéma qui précise à ses transporteurs, que la traversée de Verberie est interdite. Donc voilà, ça c'est un deuxième point, je pense que c'est quand même très intéressant. Vous vous souvenez également qu'on avait demandé des choses sur le plan acoustique. Donc sur le plan acoustique, les bruits émis par le fonctionnement des installations respectent les critères définis par l'arrêté ministériel, etc., relatifs à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Néanmoins, celles-ci feront l'objet d'une nouvelle campagne de mesures, c'est ce qu'on demandait, à laquelle je recommanderais d'associer la municipalité de Verberie selon les dispositions qu'elle a bien voulu définir. Et c'est également repris dans la conclusion qui fait une vingtaine de lignes du commissaire enquêteur. Autre point qu'il reprend... il demande que le bilan des mesures relevant de la surveillance des poussières qui aura été transmis annuellement à l'inspection des installations classées soit communiqué par les services de l'État aux communes de Longueuil-Sainte-Marie et de Verberie. Voilà, il y a d'autres dispositions également qui concernent la commune de Longueuil-Sainte-Marie et des dispositions qui concernent également la communauté de communes de la Plaine des Traits. Auquel le commissaire enquêteur demande à Brésillon de répondre au plus près à l'ensemble des demandes de précision et de recommandations qu'elle a bien voulu émettre. Dans une remarque qui dépassait le cadre de notre délibération, j'avais également envoyé une remarque demandant à ce qu'on connaisse les lieux de stockage, que je vous rappelle que les terres ne font qu'un transit là, elles vont sur des lieux de stockage. Là, le commissaire enquêteur dit que j'outrepasse quelque peu mon pouvoir de police, mais que néanmoins, il va demander effectivement au service de l'État, dans un souci de transparence, que ces affaires-là soient communiquées. Alors ça, on verra bien, ça dépend de l'État. Enfin, il y a déjà quand même, comme vous pouvez le voir, pas mal de choses qui ont été retenues de tout ce qu'on avait mis, en fait, et des demandes qu'on avait faites, en disant qu'on était extrêmement défavorable. Bon, là, les aspects défavorables tombent quasiment tous, puisque tout est accepté. Voilà, sur ce point-là, comme quoi, aujourd'hui, s'intéresser aux enquêtes publiques, ça permet aussi de travailler sur le long terme, en fait, pour ces affaires-là. C'était le premier point. Nous allons donc maintenant passer au point suivant. C'est donc l'approbation du projet de charte du parc naturel. Donc je vais chercher. Voilà. En fait, la question qui est clairement posée, c'est la commune de Verberie souhaite-t-elle adhérer au parc naturel régional Oise Pays de France ? C'est une grosse organisation, puisqu'au total, ça doit recouvrir environ 80 communes sur cette affaire-là. On en a déjà parlé, donc aujourd'hui, on va effectivement passer au vote sur ces affaires-là. Qui souhaite intervenir en premier sur ce point ?
Moi, j'aurais quelque chose à dire tout à l'heure, mais... Si on me donne la parole tout à l'heure,
je... Ah ben, celui qui demande la parole, l'aura. Hein.
Oui.
Pas de problème. Bon, pour l'instant, personne ne veut prendre la parole. Je vais donc... j'ai repris un peu ce que j'avais écrit, regardé, et j'ai donc rédigé un papier concernant cette charte du parc naturel régional. Alors, nous avions, avant notre élection, promis de réouvrir le dossier de ce parc naturel régional, si nous étions élus. C'est ce que nous avons fait, en prenant en compte notre connaissance de la vie locale et la mise en parallèle des évolutions intervenues dans le contexte politique, environnemental et social de notre territoire. Depuis 5 ans, maintenant ça fait 5 ans, effectivement, la protection des espaces naturels s'est considérablement renforcée, au travers de la loi sur la biodiversité, de celle sur la transition énergétique et de bien d'autres mesures. De même, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ont développé ou développent des mesures très protectrices sur les différents bassins, dont ceux de l'Automne et de l'Oise-Aronde, qui couvrent la commune. Alors il y a aussi le bassin de la Nonette qui effleure la commune. Et il y a aussi la même chose sur ce syndicat. La réalisation des plans locaux d'urbanisme nécessite maintenant des études environnementales importantes. On l'a bien vu avec le plan local d'urbanisme intercommunal dont on est en train de sortir. Il fait quand même 2000 pages. Beaucoup d'études sur tout ça. Il en est de même du nouveau plan de prévention des risques d'inondation qui devrait entrer en vigueur en 2020. On avait eu une première affaire sur tout ça. Le préfet a renoncé et donc a remis ça à plus tard. Et ça devrait effectivement être validé en 2021, sachant que de toute façon, on n'échappe pas au fait qu'il nous faut un plan de prévention du risque des inondations. Et prendra des mesures extrêmement restrictives, ce PPRI, notamment dans toutes les zones d'expansion de crues qu'il reste encore à définir. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine-là. Si autrefois la législation pouvait apparaître à certains comme laxiste, à l'époque, ce n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Elle est au contraire particulièrement lourde et tatillonne, décourageant d'ailleurs bon nombre de porteurs de projets. Dans ce contexte déjà très réglementé, notre entrée dans le parc naturel régional Oise-Pays de France apporterait à Verberie une couche supplémentaire de contraintes, d'administration et de complexité à notre territoire, déjà largement soumis aux exigences environnementales, Natura 2000, SNIEF, sites classés et inscrits, zones humides, etc. Les aménagements aujourd'hui prévus sur la commune, donc la zone d'hébergement de loisirs en face du parc nautique, la zone d'habitat résilient au quartier de la gare, seraient soit gelées, soit fortement impactées. Ce sont autant de projets dont la commune a besoin. De nouvelles contraintes paysagères seraient introduites dans l'emprise même du site de l'entreprise Fauquelin. C'est une entreprise de grande qualité que nous sommes très fiers d'avoir sur notre territoire. En outre, la réalisation de la liaison RN2-RN31, qui est notamment destinée à désenclaver la vallée de l'Automne et à écarter une partie de la circulation, notamment poids lourd du centre-ville, attendue depuis déjà trop longtemps, ne verra pas le jour. Le parc naturel régional constitue un élément supplémentaire du millefeuille administratif, alourdissant encore les chaînes de décision. Il introduit évidemment une structure supplémentaire qu'il conviendrait de financer avec de l'argent public, qui ne sera plus disponible pour d'autres usages. Cet argent viendra en partie du budget communal dont les ressources baissent d'année en année, si l'on ne veut pas trop augmenter les taux des taxes locales. Il s'agira donc pour le budget communal d'une nouvelle ponction annuelle obligatoire qui peut être évaluée aujourd'hui à plus de 10 000 euros. C'était ça, René ? Plus de 10 000 euros, sachant que la cotisation peut être évidemment réévaluée par décision du conseil syndical régulièrement. Évidemment, 10 000 euros si la commune intègre ce nouvel ensemble.
Et c'est en fonction de quoi qu'ils augmentent comme ça ? La
règle de calcul, elle repose sur le nombre d'habitants d'une commune, et ensuite le conseil syndical peut très bien, c'est comme les impôts chez nous, il peut voter une augmentation de la participation par habitant.
D'accord.
Voilà. Alors certes, il sera toujours possible d'argumenter qu'une partie, et même au-delà de ces sommes, reviendront vers la commune, mais les actions ou études conduites correspondront-elles aux priorités et aux besoins réels du territoire en ces temps d'argent rare ? Assainissement, on en a encore un paquet à faire, voirie, mise aux normes de l'accessibilité, entretien et rénovation des bâtiments communaux, réduction de la circulation des poids lourds dans la commune, je ne pense pas que ce soit au cœur des préoccupations du parc naturel régional. Il reste que le conseil des spécialistes du PNR peut être un atout pour certaines communes qui ne disposent pas de cette expertise. Ce n'est pas notre cas. L'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Automne comporte un pôle développement durable avec 17 agents hautement qualifiés. C'est d'ailleurs à ce niveau que se trouvent les compétences environnementales. C'est la loi, ça, hein ? C'est la loi NOTRe qui a fixé tout ça. Comme celle liée à la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, délégués par ailleurs à des syndicats, 3 couvrent Verberie, avec chacun à leur niveau des experts. Ces spécialistes, donc ceux de l'agglomération, travaillent au quotidien en interdisciplinarité étroite avec leurs collègues du développement économique, de l'habitat, apportant ainsi une véritable synergie indispensable aujourd'hui et demain à l'évolution de nos territoires. C'est une vue globale. L'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Automne est donc le lieu le plus pertinent pour aborder les questions d'aménagement du territoire de façon transversale, dans une logique de développement durable, car c'est leur compétence. Il y a d'ailleurs un pôle aménagement qui ne fait que cela, et là, dans ce domaine-là, clairement, si le PNR avait des choses à apporter, etc., autrefois, les spécialistes sont vraiment de ce côté-là. Elle mène par ailleurs une politique ambitieuse dont la qualité est reconnue. Donc il faut quand même savoir qu'il y a un atlas faune-flore qui est en cours sur toute l'agglomération. On vote tous les ans des aides aux agriculteurs pour réduire les taux de nitrate dans les champs. Donc là, il y a vraiment une politique importante qui est menée. L'agglomération de la région de Compiègne a été l'un des 61 territoires retenus par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour intégrer la démarche de contrat de transition écologique, sur lequel on va d'ailleurs devoir travailler. Des transports gratuits dans toute l'agglomération, c'est aussi ça le développement durable. Des repas bio, puisque d'ailleurs ils commencent à beaucoup travailler là-dessus, hein, ils appuient aussi des exploitations bio, oui. La mise en place de jardins bio, oui. Et le 22 novembre, toutes les communes de l'agglomération feront un repas bio. Oui. L'agglomération va aussi adhérer à l'ATMO, ça c'est au prochain conseil d'agglomération, donc l'ATMO, c'est l'association qui mesure la qualité de l'air. Pour info, c'est quand même 20 000 euros par an. Je trouve qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. 20 000 euros par an pour toute l'agglomération. Et puis, elle travaille aussi sur le maintien du patrimoine forestier. Elle travaille aussi sur le maintien du patrimoine forestier, puisqu'il y a la forêt de Compiègne qui est un élément patrimonial particulièrement important. Il y a 2 ans... Bah oui, la forêt de Compiègne.
Bah, s'il en reste, oui.
Bah justement, ils se battent pour ça. Et c'est vrai qu'avec l'ONF, c'est pas toujours facile.
C'est les temps.
Bah l'ONF, c'est un peu. Voilà. Hein.
C'est les temps, ils broient tout.
Il y a 2 ans, elle a réagi immédiatement aux rumeurs d'installation d'un showroom d'éoliennes sur le plateau situé à la sortie sud de la ville, en votant à l'unanimité une motion pour s'opposer à ce projet, dont les impacts paysagers seraient très négatifs. L'agglomération a mis en place Habitat Rénové, qui facilite les démarches et l'obtention des aides pour la rénovation énergétique des logements. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut répéter constamment à nos concitoyens, que c'est quelque chose qui est gratuit, avec des gens qui ne dépendent d'aucune société, donc vous êtes assuré d'avoir un conseil de qualité. Et c'est un guichet unique, parce que les aides, ça varie en permanence, les conditions pour les obtenir en particulier, et ces gens-là ne font que ça. Donc ils sont très faciles, ils sont tout à fait aptes à fournir les conseils. Ils ont d'ailleurs fait une campagne à laquelle on a largement participé de prise de vue infrarouge sur la commune. Cet organisme, Habitat Rénové, avant il était financé en grande partie par l'État et un peu par l'agglomération ou 50-50. Aujourd'hui l'État s'est complètement retiré. Donc c'est l'agglomération qui finance tout. L'agglomération est certifiée ISO 14001 en management environnemental pour le suivi des stations d'épuration. Donc c'est pas si fréquent, c'est même assez rare. L'ensemble des communes de l'agglomération ont adopté le niveau 2 de la nouvelle charte zéro phyto et la gestion différenciée des espaces est mise en œuvre. Par ailleurs, nous terminons le document du PLUIH, sur lequel on a eu une réunion hier d'ailleurs avec les partenaires publics associés, et a priori on se dirige vers une approbation, qui vient d'être soumise à enquête publique, donc on est un peu plus loin là, et qui sera validée par le conseil d'agglomération, a priori en novembre. Nous avons su écarter le projet Lidl à proximité de la commune, qui n'était nullement un projet d'agglomération, je tiens à le dire. La main fermée sera désormais une zone naturelle, puisque de très clairement, il faut être honnête, on ne nous a pas laissé le choix. L'État ne nous a pas laissé le choix. Donc ça a été, quand je dis qu'aujourd'hui c'est très contraint, ça l'est effectivement. Les terres agricoles sur le plateau sont classées en A indice E, c'est-à-dire zone classée à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et dont le patrimoine est à valoriser. Et sur tout ça, contrairement à ce qu'on aurait peut-être pu craindre, il y a toujours eu des discussions. L'agglomération ne nous a jamais rien imposé. Je le dis facilement, y compris dans le domaine de l'habitat. Ils avaient des besoins en habitat, ils ont demandé ce que chacun voulait faire. Nous, on avait le projet de résidence intergénérationnelle. Ils ont dit, ok, bon, c'est terminé, on est parti avec ça. Et nous, on avait le projet, c'était le nôtre, hein, de mettre en place un peu d'habitat au quartier de la gare, dans des conditions d'ailleurs au plan local d'urbanisme intercommunal qui sont parfaitement définis et qui indiquent qu'on ne va pas jusque... c'est du R plus 1 maximum. Donc, durant les 5 ans de ce mandat, Je crois que nous sommes restés particulièrement vigilants sur la protection et le devenir de notre territoire, et le parc naturel régional Oise Pays de France ne nous a jamais manqué. Nous avons évoqué tout à l'heure l'enquête publique concernant l'extinction Brésillon qui s'est déroulée en plein été. Donc ça aussi, c'était assez fort. Nous avons obtenu des résultats significatifs que j'ai donnés tout à l'heure, qui vont dans le sens de l'écologie et de l'intérêt de notre commune. Le PNR était concerné. Moi, personnellement, je n'ai pas vu d'avis de sa part. J'ai vu l'avis des communes, je n'ai pas vu d'avis de sa part. Pourtant, il a des communes qui étaient concernées par l'enquête publique. L'adhésion au PNR est un engagement de 15 ans. Engagement de 15 ans. Donc, on élit des conseils municipaux, cherchés, tous les 6 ans. Donc, clairement, on s'engage. Alors, il y a des domaines où ça se comprend. Hein, on en verra tout à l'heure, l'électricité. Mais là, boum, on s'engage pour 15 ans, c'est terminé. Et on perd effectivement de la liberté qui reste à notre niveau. De mon point de vue, il n'a rien à nous apporter de positif. Je dirais même que, comme l'agglomération a toutes les compétences, en fait, ce sont des compétences qui se doublonnent avec ce que fait l'agglomération. Derrière ça, il y aura un besoin d'exister de cette structure, c'est tout à fait normal. Et à partir du moment où elle est là, il faut que les gens existent, et ils vont donc, parfois même de manière contre-productive, essayer d'intervenir. C'est un peu l'histoire de Molière et je ne sais plus si c'est le médecin malgré lui ou le malade imaginaire, mais qui se retrouve avec de nombreux médecins autour de lui. Ce n'est pas forcément un gage de guérison. Voilà. Du moins dans l'esprit de Molière. En conclusion, je dis, vous ne serez pas étonné que ça ouvre le débat, mais je suis tout à fait défavorable à l'intégration de la commune de Verberie dans le parc naturel régional Ouest Pays de France, et ce d'autant plus que nous n'aurons jamais le temps de nous y investir. Quand on fait la totalité des réunions qu'on a sur l'agglomération, quand on fait la totalité des réunions qu'on a ici et ailleurs dans les divers syndicats, on n'aura jamais le temps de se rendre là-bas. Autrement dit, pour moi, ce serait signer quelque part un chèque en blanc, et ça, c'est pas possible. Voilà. Et puis, je dirais que la course au pouvoir de certains dinosaures de la politique, moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, ça ouvre le débat, et je comprends tout à fait que tout le monde ne soit pas de mon avis. C'est, par essence, ce qu'on appelle la démocratie. Donc, voilà. Je vous laisse maintenant... Je laisse s'ouvrir le débat.
Bon, Michel, oui, ça fait plusieurs années que je ne suis pas venu. Je voulais faire un petit rappel, comme quoi tu es venu à la mairie. Je critique. Tout d'abord, félicitations, vous avez fait beaucoup de choses pour la ville.
Merci.
Concernant le PNR, tu as été élu, bien sûr, grâce à Val Centrale. Tu as été élu grâce à toute l'équipe qui t'a soutenu, et notamment dans ta profession de foi pour le PNR. Donc, j'estime qu'il y a une trahison vis-à-vis de l'équipe à l'époque, et puis une trahison vis-à-vis des électeurs. Bon, la profession de foi, je l'ai regardée tout à l'heure, c'était très important de rentrer dans le PNR. Est-ce que les gens ont oublié tout ça? C'est marqué, je veux la faire passer. Bon, mais certainement ce que tu as dit sur Compiègne, c'est très bien. Mais moi je pense que... j'avais envie de dire que moi j'ai été trahi personnellement. J'ai été trahi deux fois parce que vous avez pris une position politique il y a quelques années. C'est pour ça que je suis parti. On en a parlé ensemble. Et puis là, pour moi, c'est une troisième trahison. Voilà. Bon. On aurait pu... adhérer aussi au PNR et travailler. Bon, maintenant, on est à l'arc, bien sûr. Voilà. Voilà. Si tu veux lire ta profession de foi du 25 janvier 2014 et le communiqué de presse, les gens ont peut-être oublié tout ça. Voilà. Je peux faire passer. C'est pas une attaque personnelle contre toi. Je voulais faire un rappel de ça. Voilà. À Verberie, je suis prêt à te défendre dans les réunions publiques sur tous les travaux, tout ce que vous avez fait. Je suis prêt à m'engager là-dessus. Mais le PNR, voilà, j'ai envie de le dire, je veux le dire en public, et je le dis en face. Tu me connais, je suis direct.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'était un peu... j'ai donné mon point de vue.
Bien sûr, tu savais très bien que j'allais sentir ça.
Oui, et puis il n'y a pas de problème, hein, d'ailleurs.
Je suis d'accord avec Patrick aussi, pareil. Ouais. Moi, je suis un objectif Vergerie avant tout, comme j'ai expliqué à Odile. Dans mon cœur, on a été... on a bataillé ensemble, excusez-moi d'expression pour détrôner M. Floury, avec tout le respect que j'ai pour vous. Il y avait une très belle équipe, dont M. Sauvage, que je respecte à 300%, même plus de 300%. Cécile qui n'est pas là, d'autres personnes, hein, bien sûr, hein, que, même Lolo, hein, que j'aime, j'adore, Lolo aussi, pareil, au dommage. Stéphanie qui n'est pas là, bon, bref. Et moi, je me suis senti trahi aussi. Trahi parce que le PNR était un cheval de bataille. Comme moi, en plus, je suis un fils de cultivateur, j'ai un peu les mêmes principes que Patrick. Mon père m'a dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça quand on est comme ça. Donc, moi, c'est ma ligne de... c'était comme ça. Pour moi, on était pour le PNR. Après, je suis d'accord que le PNR, aujourd'hui, ça, peut-être, ça fout le bordel un peu, peut-être. Enfin, moi, j'ai rencontré M. Marchand il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec lui, super sympa. Une super personne. J'ai rencontré aussi le maire de Ruiz hier, j'ai discuté avec lui. J'ai discuté qu'on allait voter ça aujourd'hui. Mais tu vois, moi, le PNR, ça nous a fait plein de choses. Il m'a dit aucune mauvaise retombée. J'ai discuté aussi avec M. de la Bédoyère. Il m'a dit le PNR, c'est bien. Il m'a dit on s'en plaint pas. Il m'a dit moi, j'ai l'autorité aussi. On ne fait pas non plus ce qu'on veut à Arrêt. Le PNR ne fait pas ce qu'il veut à Arrêt. Il faut lui faire comprendre aussi ça. Et puis, donc d'autres personnes élues aussi que j'ai discuté avec eux. Parce que j'avais envie de me renseigner aussi, hein, pour ne pas passer pour un couillon devant vous. Hein. Non, parce que les QI à zéro, moi j'ai pas le QI de zéro, j'ai QI à 0,5, donc j'en ai un petit peu quand même. Mais bon, bref, et en fait, et ben voilà, donc moi je me sens trahi aussi, et vu que je porte beaucoup d'affection pour M. Sauvage, hein, je suis son principe. Pour moi, je aussi me sens trahi là-dessus, et d'autres choses, parce que, mais bon, hormis ça, comme j'ai dit à Odile, jours, hein, j'avais beaucoup de respect pour vous, énormément de respect pour vous et puis pour les autres. Hein. Donc c'est dommage, parce qu'il y avait des très belles personnes, une belle équipe, une belle opposition aussi, hein, que je ne critique pas. Hein. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire aussi. Et moi je suis pour et je suis un pro PNR, point. Même que je suis dans le milieu de la déforestation, plus ou moins mieux géré que l'ONF, je suis pour le PNR en ayant vu les choses qu'ils font sur Chantilly, sur Boulieux, sur la Morlaix, sur des, quand même des villes qui pèsent lourd, je pense, dans le département, quoi. Je pense. Après, je me trompe peut-être, hein, je raconte peut-être des bêtises. Moi, je pense qu'il y a peut-être... Voilà. Je pense que le PNR, c'est pas dégueu. On va voir le panneau, hein, quand on arrive dans une entrée de village comme Villers-Saint-François, c'est pas mal. Je trouve que ça fait un plus. Et c'est des coins super, hein, tous ces endroits-là. Donc, moi je suis pour en fond PNR. Je suis un objectif Vergerie, qui suit les flyers qu'on avait fait.
Voilà. Le 25 janvier, tu disais que si nous n'y adhérons pas, nous serons soumis à cette pression financière très importante, très importante, bétonnage, tout ça, bon, tu le connais, mais je tiens à le redire. Si nous sommes élus, nous réouvrirons ce dossier, c'est ce que tu en as parlé tout à l'heure. Hein. Tu marques aussi favoriser les activités économiques. Hein, objectif pour le parc, compatible avec l'environnement et l'identité du territoire. Rétablissons la vérité, il n'interdit pas les activités sur son périmètre. Le PNR n'empêche pas la construction de logements en zone urbaine et sur les zones prévues pour l'urbanisation. Il ne participe pas à l'instruction des permis de construire. Je ne sais pas si ça, c'est toujours actuel ou pas.
Voilà, discuter avec M. Marchand.
Protéger le patrimoine. Enfin, voilà, si. Enfin, tout ça, c'est. Tu l'as écrit, on t'a suivi pour ça. Je me suis engagé. Dans Pâte Centrale pour que tu arrives comme maire, il ne faut pas oublier, et toute l'équipe, et Michel Brouillard aussi, à cette époque, il était à Pâte Centrale, il était à la pointe du combat avec plein d'autres.
D'accord, alors, c'est pas pour cette raison, c'est un contrat, on peut avoir les mêmes idées. Bon, voilà, je ne suis pas d'accord.
Je l'ai en travers.
Alors, il y a peut-être d'autres réactions maintenant.
Rappelez, puisque nous étions contre le PNR à l'époque, mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, le monde change, l'environnement joue une place prépondérante dans nos vies, et on a eu la preuve avec l'enquête publique qui s'est faite là, et sur laquelle aucune structure n'avait d'esprit. Il n'y avait rien, aucune, à part l'enquête publique, mais le PNR, peut-être que ça n'était pas dans la zone du PNR.
Donc, pardon, c'était dans sa zone. C'était dans sa zone, puisque les communes ont été consultées. Parmi les communes consultées, il y avait, alors à moins que je me trompe, parmi les communes consultées, il y avait donc Pontpoint, et que je sache, Pontpoint fait partie du PNR. Il y en a peut-être d'autres, hein, d'ailleurs. Hein, moi,
aujourd'hui, au niveau du PLUH, les zones industrielles de Garderie n'ont plus. Ça a été... les derniers 30 hectares ont disparu. Donc, la protection des arbres, moi je dis que c'est extrêmement important. On a vu fleurir, tous les arbres de la ville ont été abattus. Hein, c'était un massacre à la tronçonneuse.
Bon.
Donc, je considère.
De quels arbres parlez-vous ?
Je parle des arbres derrière Montmort, je parle des arbres. De la cour de l'école maternelle, hein, où aujourd'hui on a remplacé par une tente. Dans toutes les écoles, il y avait des tiges avec des arbres pour que les enfants puissent se mettre à l'ombre. Bon, alors, ça, on va dire que c'était comme ça. Bon, comme aujourd'hui, plus d'arbres. Bon, sur la place des marchés, l'ancienne place, la place générale, il n'y a plus d'arbres non plus. Enfin, les arbres sont en train de disparaître les uns derrière les autres. Bon, on dit qu'on ne peut pas m'étonner. Enfin,
mais vous oubliez les choses qui ont été replantées, Monsieur Fleury. Il y a des arbres qui ont été replantés dans le parc de la mairie, des arbres fruitiers. En face du collège, ça a été réaménagé et replanté. Donc, après, on n'a pas comptabilisé.
Aujourd'hui, le parc naturel régional a une image, hein, et que ça donne une image positive sur la ville. Mais... Vous voyez, le monde change.
Ah oui, le monde change.
Plutôt, oui.
Se rallient, ils ont compris les
sons,
vous savez, c'est
tout. C'est fort, c'est très fort.
Ah oui, vous voyez.
Assez stupéfait.
Ah, bien sûr, mais c'est bien pour ça. C'est que j'ai compris, moi. J'ai compris que l'environnement était une chose importante, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voterai pour l'adhésion au PNR. Voilà. Bon.
Alors que l'environnement soit une chose importante, on y souscrit tous, et d'ailleurs c'est le travail qu'on a fait plus encore. Vous évoquez des arbres. Je vous signale quand même que les arbres qui étaient derrière le monument aux morts étaient malades. Voilà, exactement. Je vous signale aussi
tous ceux qui étaient sur la place. Oui.
Ces arbres-là étaient malades. Bon, on a replanté un chêne à la place. On replantera des arbres parce que je pense qu'effectivement c'est quelque chose d'important. Je signale quand même que un arbre c'est sans doute la vie, mais ça mérite d'être entretenu aussi.
On a fait
exactement. C'est pour ça que le cerisier qui était dans la cour là a été remplacé par un autre plus jeune. Il avait fini sa vie. Je termine. Je laisse la parole. Et puis aussi, on a fait des travaux d'entretien des arbres très importants dans tout le parc du château d'Armont. Entretien de sécurité, entretien pour embellir ces arbres. Donc moi, je souscris tout à fait au fait que les arbres soient des choses importantes, surtout avec le changement climatique qu'on nous annonce. Donc on replantera des arbres, mais comme a dit Jean-Claude, et je vais lui laisser la parole, derrière ça, des arbres, ça vit, c'est un cycle de vie. Ça meurt. Des arbres fruitiers, ça vit plutôt moins longtemps que les autres. Au maternel, il y a eu effectivement des arbres de replantés. Il y en aura d'autres qui seront replantés. Voilà, parce que ceux qui étaient en place, bon, ceux de la place du Général de Gaulle, vous savez qu'ils étaient quand même en piteux état, quoi. Hein, d'ailleurs, c'est des habitants qui sont venus me voir pour me dire, monsieur le maire, les arbres là. Sont plus terribles, il n'y a plus de fleuilles, il n'y a plus rien, il va falloir faire quelque chose. Donc on l'a fait.
Puis dans le
la nature, ça s'entretient aussi, ça avance. Oui.
Bah, dans le développement durable, ça va bien plus loin, puisqu'on a quand même fait des séries de travaux, je parle, sur les écoles, pour faire des économies d'énergie, pour baisser les factures d'eau. On a sensibilisé les enfants. Non, mais c'est quand même dans l'environnement. C'est quand même dans l'environnement. Je m'excuse, mais les fuites d'eau. Non, non, pas du tout. Mais en tout cas, ça va dans l'environnement.
Et on a fait le
zéro phyto. Et la zéro phyto. La
zéro phyto. Alors, je vous explique un truc. Si vous voulez vraiment frustrer tout le monde dans Verberie, parce que quand on a été élu en début de mandat, Michel, j'avais fait un stade de tout le parc du château d'Aramon, 90% du parc du château d'Aramon, les arbres sont à abattre ou à élaguer. D'accord ? Donc tous les arbres sont tous malades dans le parc du château. Ben oui, tous malades. Ils sont tous en train de crever. Ces arbres-là, ils sont plus que centenaires. Il y en a qui n'ont rien pour pousser là par hasard, comme c'est des érables. Non, mais.
C'est ton avis ?
Non, non, mais c'est pas mon avis. C'est la vérité. Ben, c'est la vérité. Et même les gens qui ont bossé pour vous, qui ont élagué les arbres au bord de la route, c'était dans l'insécurité totale. Parce que nous, quand on voit ce qu'on me demande, quand j'ai là des petites branchettes de tilleuls dans la rue du Porche et Cécile, ils étaient dans l'illégalité totale. Déjà, dès qu'on élague la moindre petite branche, ça doit être marqué par panneau, abattage, élagage, débardage, débroussaillage, tout ce que vous voulez, c'est des normes forestières. Aujourd'hui, après, pour vous dire, le château et le parc est quasiment tous morts. Après, si vous voulez faire des restes vivants, il faut l'élaguer. Tous les gros arbres du château sont bons à élaguer complètement si vous voulez les garder encore 100 ans. Donc ça, c'est mon avis personnel, mais c'est mon avis qui est vrai, parce que je les ai sondés, tous les arbres ont été sondés. J'ai tout fait un à un, ça m'a coûté une semaine, 47 heures de travail. Et j'avais tout marqué qu'un petit point orange, mais M. Leblanc était au courant, j'avais dit ce qui était à bas, tout ça, et je vous avais même prévenu qu'il y avait des arbres qui étaient cassés, que j'avais entouré, tout ça, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Bon, enfin bref. Après, les arbres qu'on
ce que je dis, c'est qu'on
les arbres fruitiers, Laurent. Quel arbre fruitier tu parles, Laurent, au collège ?
Bah, quand je dis les arbres fruitiers, il y a des choses qui ont été replantées.
Non,
il y a des. Ça fait partie de la nature. C'était une façon globale. C'est une façon globale. Vous jouez sur les mots. Mais pas du tout. Je vois là vous me cassez. Mais bien sûr, nous avons été replantés. Excusez-moi, je n'ai pas fait le compte de ce qu'on a déplanté, de ce qu'on a replanté, mais globalement. Mais je n'ai pas. Mais je n'ai absolument pas dit ça.
Non, mais c'est mon métier, Laurent.
Mais il n'y a pas de problème. Je ne t'ai pas critiqué.
Moi, l'arbre, je rentre dedans. Je le parle avant de.
Mais c'est très bien.
C'est mon business, tu vois. C'est comme l'ONF aujourd'hui, c'est le business, c'est le pognon. Donc nous, on fait de la gestion forestière, c'est différent. Quand on repart, il reste des arbres, ou on en replante, tu vois. Bon, et on ne plante pas un chêne parce qu'un chêne, tu ne le reverras jamais. Très aujourd'hui, bien. Ce qui fait qu'il bouffe le CO2, c'est les pins. Bon. Voilà, un pin taillé, il prend 1,50 m de l'hectare. D'accord bien. Non, mais je vous explique, voilà. Donc c'est pour vous, c'est pour ça que je dis. C'est pas un arbre, c'est.
Je n'ai pas dit que c'était un arbre, j'ai dit qu'on avait replanté de façon générale.
Mais, pas un
mais oui, d'accord, j'ai bien compris. Voilà. Voilà. J'ai bien compris.
C'est pour les chances que je fais bien, mais.
Oh, pas du tout.
Alors là. Tu rigoles, non, mais tu rigoles, tu te fous de ma gueule, ça me plaît pas.
Mais non.
Moi, je te dis juste que c'est
pas. Oh, bah non, c'est compliqué. Si on peut rien dire et rien faire ni sourire, c'est compliqué.
Moi, j'assume ce que je dis.
D'accord,
j'en prie. Avec 0,5 de QI ou 0 de QI, je dis quand même ce que je vais faire.
Non, j'ai encore
de.
Ah ben avec vous, oui, on le voit.
Et vous, vous étiez vous, en même temps, vous êtes contre. Ah. Le monde est quand même gros malin.
On a bien le droit de changer d'avis.
Mais absolument.
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Bah, justement.
Voilà.
Bien.
Moi, je dis que la protection de l'environnement est
animale.
Annie,
qu'est-ce que tu voulais dire ?
C'est extrêmement important. Et bon.
Non, bon, ben, on n'a jamais dit le contraire non plus. On n'a jamais dit le contraire non plus, simplement. On a simplement dit qu'aujourd'hui, on avait les outils nécessaires pour être protégés, justement, contre tout ce qui peut arriver sur l'environnement. On a des équipes qui sont très, très bien à l'arc et qui sont tout à fait capables de pouvoir faire ce que nous propose le PNR, c'est tout.
Les parcs naturels, les régionaux, que ce soit en Savoie... Ouais.
Si c'est pour avoir un panneau PNR à l'entrée de la ville et puis qu'il n'y a rien au bout, ça ne nous intéresse pas.
Que ce soit au Roquefort, que ce soit dans les Alpes, que ce soit en Bretagne, aucune image. Et cette image, elle est positive. Et il est important aussi de donner une image positive.
Mais monsieur Fleury, puisque l'arc vient d'une des 61 intercommunalités, il y en a moins d'une par département... Hein, qui a aujourd'hui le contrat de transition écologique, là aussi, c'est reconnu. Et c'est largement reconnu. voire validé au niveau ministère. Oui.
Je m'excuse.
Je m'excuse
vite fait. Monsieur Marigny est tellement écolo qu'il laisse faire l'ONF qui déforeste la forêt de Compiègne. Allez-vous, attendez, je suis en permanence là-bas avec le groupe forestier qui s'appelle NSF2A, président, vice-président, monsieur Denis Defaux et monsieur de la Bédoyère. Je travaille avec Michael Canfin, qui est un technicien forestier diplômé d'État, qui est un professionnel. L'ONF, ils vous font leur petit carré de grillage, qu'ils font marcher leurs petits copains. Mais c'est qu'un business, Marigny, c'est qu'un business. Donc qu'on ne dise pas n'importe quoi, c'est qu'un business. Il fait travailler sa petite clôture muséale. Non, je dirais pareil. L'ONF, ils défoncent tout, ils mettent leur grillage, les ronces prennent le dessus, il n'y a rien qui pousse.
Mais en ce moment,
l'agglomération... Donc M. Marigny, il n'est pas pour l'environnement. Hein. Je peux vous le dire aussi,
en ce moment, l'ONF, l'agglomération, travaille pas avec l'ONF. Elle est contre l'ONF. Il suffit de lire la presse. C'est dans la presse.
Je suis pas dans la presse, je suis dans les bois avec eux. Dans les bois en live.
Tu écoutes
J'écoute, mais parce que vous ne m'écoutez pas non plus. J'ai été à une réunion dans les Ardennes. Bois, bûche, énergie, plaquette. On s'est embrouillé avec eux pour ça.
Jean-Claude, on t'écoute et c'est vrai que dans la manière de s'occuper des arbres dans la forêt de Compiègne, normalement, aujourd'hui, de plus en plus, on n'enlève pas des zones complètes, mais c'est plutôt un arbre sur trois pour qu'il n'y ait pas des trous. Et c'est vrai que...
Oui. C'est pipeau. Les arbres qu'ils laissent sur pied, bon, c'est parce qu'ils restent de maturité pour les vendre plus cher.
Il y a des gros trous dans la forêt de Compiègne.
Et ce qui grignote ne repousse plus.
Maintenant, la question que je me pose, c'est... Si on a des normes d'urbanisation, est-ce que le PNR pourra vraiment nous protéger ?
Il faut mettre un coup de pompe dans le cul à Marigny et dire arrête de faire tes magouilles. Arrête de faire tes magouilles, arrête de faire bosser tes potes. Mais c'est la vérité, c'est une mafia de toute façon.
On peut
L'État
pas...
est une mafia. Donc,
non. Bon. Après ce discours, ce qui a été dit sur l'ONF est exact en ce moment. Sa politique, d'ailleurs, pose problème à tout le monde. Et ça, la manière dont elle fonctionne aussi. Mais non, l'agglomération, elle n'est pas pour la politique de l'ONF.
Michel, vous avez pas que je parle trop. Est-ce que vous savez combien de chiffres d'affaires l'ONF doit faire par jour ?
Je te répète et je te dis, dis que la politique de l'ONF est mauvaise. Ce que tu vas me dire, je le sais.
À combien ?
Je sais qu'aujourd'hui, l'ONF doit rentrer beaucoup d'argent, ne serait-ce que pour payer les retraites de ses agents. Non, je n'ai pas le chiffre. Ne serait-ce que pour les retraites de ses agents et que ça conduit à des politiques de déforestation. Je le sais parfaitement.
Tout bois confondu par 100 000 euros.
Mais simplement, c'est pas l'agglomération de la région de Compiègne.
De plaquettes forestières par mois.
Et c'est pas non plus la politique de l'agglomération de Compiègne. Au contraire.
Continuez à vous chauffer.
Là, ce que l'agglomération, elle veut, c'est au contraire que la forêt soit bien entretenue. Et c'est la volonté des maires. Eh bien, elle ne l'est pas. Et on est d'accord. Elle ne l'est pas. Mais ce n'est pas le fait de l'agglomération de la région de Compiègne.
Allez faire un tour dans les Ardennes belges, 2 heures et demie de route. Vous allez voir comment c'est une forêt.
C'est pas notre région, les Ardennes belges.
Gestion forestière. Et qui sont dans la zone PNR aussi.
On ne vote pas, pour ou contre l'ONF, là.
Oui, moins de pression.
Bien. Ensuite, donc, tu as parlé, effectivement, il y a eu plusieurs choses qui ont été dites. La position depuis 2014, elle a changé. Elle a changé, j'ai expliqué pourquoi. À un moment donné, moi, dans mon analyse, je ne pense qu'à une chose, ce sont les habitants de la ville. Je le dis très clairement, ça a été un peu dit aussi tout à l'heure. Les choses ont évolué, on a intégré l'agglomération de la région de Compiègne, les textes réglementaires ont beaucoup évolué. On est aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'intérêt des habitants. Et donc, voilà ce qui m'a amené à me prononcer. Ensuite, que certaines communes soient très contentes du PNR, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, j'ai dit ça dépend. S'il n'y a pas effectivement de pôle développement durable et si on ne doublonne pas la compétence, il la faut cette compétence-là à un moment donné. D'ailleurs, elle n'existait pas sur la communauté de communes de la Basse-Automne. À ce moment-là, on en aurait peut-être eu besoin. Mais aujourd'hui, elle existe pleinement dans l'agglomération de la région de Compiègne. Ils sont même plus nombreux qu'au parc naturel régional. Donc, et quand on parle d'action pédagogique, parce que c'est aussi une des actions du PNR, aujourd'hui, les actions pédagogiques, on les a via notamment les syndicats. Nos classes ont participé à des comment on appelle ça, des événements, une semaine où ça se dure sur trois mois, je crois, des actions
qui sont lissées sur toute l'année.
Voilà, et ils ont été rendre compte de ces actions. Donc, ils ont fait ça avec le syndicat Oisaronde. Et des actions comme ça, on en fait d'ailleurs à peu près tous les ans.
Il y a Oisest aussi. Avant
avec le CPIE.
Oui. Mais il y en a toujours avec le CPIE, par le biais de l'agglomération. Oui. Il y en a toujours. Simplement les compétences.
Qui l'a fait partir, le CPIE ?
Comment ça, qui l'a fait partir ? Le CPIE.
Il lui donnait 20 000 euros par an au CPIE, sur les frais de. Sur les gens.
20 000 euros par an ?
20 000 euros, oui.
Plus le logement.
Bien sûr. Alors, on peut me reprocher tout.
Bon, je ne reproche rien, c'est un constat que je fais.
De l'environnement et du soutien du centre permanent d'initiation de l'environnement, on ne peut pas me le reprocher, j'ai toujours soutenu.
Il y avait le projet de centrale.
Moi, je ne reproche rien, je fais un constat. On constate une certaine évolution.
Très bien. Bon, maintenant, vous avez supprimé les subventions, vous avez fait partir.
Bien, je reviens quand même sur certains faits. Oui, alors je dis, et quand on dit le PNR, c'est pas dégueu, j'ai jamais dit dans mes propos que c'était dégueu ou autre chose comme ça. Non, mais je dis, mais c'est pas le problème des mots. Je le reprends. Je dis que j'ai jamais dit ça. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous avons toutes ces compétences-là. Elles sont très bien mises en œuvre par l'agglomération. Et il n'y a pas de raison de doublonner tout ça. Voilà. Bien.
On peut voter à un bulletin secret ou pas, ou c'est trop tard ?
Non, moi je vote à bulletin...
En ce qui me concerne, on peut faire un vote public si c'est...
Moi, je voulais bien un vote public aussi. Moi, je préfère un vote public aussi, complètement.
Ah ben, c'était ce qui était prévu. Enfin, vote public, peut-être pas, c'était pas ce qui était prévu.
La différence entre le vote normal et le vote public, c'est qu'à la fin de la délibération, il est précisé les noms des votants et pourquoi ils ont voté.
Voilà, oui, moi, il n'y a pas de problème. Alors, on peut faire un vote public.
Normalement,
c'est deux tiers.
Vote secret pour un tiers.
Il faut quoi ? Un tiers ? C'est comme pour la délibération.
C'est
un quart.
C'est un quart ou un tiers ?
C'est un quart.
Un tiers, voilà. Bon, alors on y va. Qui veut un scrutin public ? Levez la main. Donc finalement, c'est public.
Ah bah moi j'en ai deux.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ok. 8, on est, j'ai dit, on est 25.
25 en termes de vote.
C'est ça ?
Bon. On a tout faux.
D'accord. Qui veut un vote à bulletin secret ? Donc, plus personne. Bon. Très bien. On y va donc pour un vote public. Vous avez une liste avec vous, madame ? Parce que. Oui, oui. Bien, donc on va passer au vote. Donc qui est pour l'adhésion ? Pour l'adhésion de la commune de Verberie au parc naturel régional Oise Pays de France. Alors, Jean Enzi, baissez la main une fois que j'ai donné le nom. Patrick Sauvage, Lysiane Grosbon.
Et Michel Biel.
Dolores Barouin. Jean-Claude Lemercier, Monsieur Cournil. Alors attendez, vous êtes où, madame ?
Je mets en face du nom des personnes.
Vous êtes à qui, là ?
Donc, Enzi Jean, oui.
Alors attendez, on relève les mains. Bon, oui, j'ai été trop vite.
Sinon, il suffisait de demander à chaque cachant dans l'ordre et ça allait
bien. Ouais, c'était plus.
Bon, ben allez-y.
Alors, Enzi Jean, oui. Arnaud Michel ?
Non.
Arnaud Odile.
Non.
Barbier Maria.
Non.
Barouin Dolores.
Oui,
pardon. Yves Michel.
Yves
Michel.
Oui.
Baumlaer Laurent.
Non.
Brouillard René.
Non.
Carpentier, Annie.
Abstention.
Clos-Marie.
Non.
Enfin, non, oui, c'est ça.
Coulet-Dominique.
Oui.
Cournil-Jean-Jacques.
Oui.
Dumont-Laurence.
Dumont-Laurence.
Non.
Laurent Gomelet.
Non.
Non. Fagot-Edwige.
Abstention.
Floris-Patrick.
Oui.
Courdrin-Stéphanie.
Absence.
Gazaski-Nicolas.
Oui.
Robon-Lisiane.
Oui.
Oui. Lally-Christophe.
Oui.
Le Mercier-Jean-Claude.
Pour.
Oui. Merlin-Marie-France.
Abstention.
Palier-Francis.
Non.
Rabé Philippe absent. Ravido Cécile.
Non.
Raoui Ferrugia.
Non.
Et Sauvage Patrick.
Oui.
Oui. Stéphane Patrick.
Non.
Non. Alors, je vais prendre un petit.
C'est bon.
Ouais,
mais c'est pas grave.
Alors, 25 votants, 3 abstentions, 11 pour, 11 contre. Je recoupe. Alors, 1, 2, 3,
dans ce cas-là,
bah, la voix du président est prépondérante, c'est ça?
Oui, et comme c'est un secrétaire public.
Ah, il n'y a pas de cas d'un secrétaire secret.
Oui, je vous laisse vérifier.
Souffler dans le bol, on s'en fout.
Voilà, les délibérations sont prises d'articles 21-21-20. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés lorsqu'il y a partage égal des voix, et sauf en cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Bon.
Vous savez, vous n'avez pas besoin de...
Donc c'est contre. C'est terrible de parler de stratégie alors que en fait c'est pour les habitants.
On assume, mais on parle pas d'environnement, on parle de stratégie.
Bon, donc
ouais, je trouve que c'est assez fort.
On passe alors simplement, donc ça signifie, on est bien d'accord, que la commune n'adhère pas au PNR. Voilà. Bien, je vous propose donc de passer au sujet suivant. Carte achat public. Je pense que ça va durer moins longtemps. Donc depuis 2016, on a en fait une carte achat public. C'est quelque chose qui permet d'acheter sur Internet. Cette carte d'achat public est arrivée à expiration aujourd'hui. Donc c'est un moyen de paiement avec carte bancaire qui permet à un porteur non élu désigné par la ville d'effectuer des achats chez les commerçants ou fournisseurs recensés au préalable. Cette carte permet d'effectuer aussi des achats en ligne. C'est dans ce cadre-là que ça nous a servi, essentiellement. Le montant plafond global de règlement effectué par la carte d'achat doit être fixé par le conseil municipal. Le coût de ce service est de 20 euros par mois pour une carte auquel s'ajoute une commission sur flux de 0,70% par transaction. Je vous propose donc de contacter auprès de la Caisse d'épargne de Picardie la solution carte achat public pour une carte d'une durée d'un an renouvelable deux fois par tacite reconduction, soit une durée totale de 3 ans, et pour un coût de 20 euros par mois auquel s'ajoutera une commission monétique appliquée par transaction de 0,70%, et de fixer le montant plafond global de règlement à 15 000 euros par an. Voilà. Questions, commentaires ?
L'intérêt,
c'est de pouvoir acheter des choses sur Internet. Et notamment, aujourd'hui, il y a des sites où il faut nécessairement payer par carte. Ouais. Donc, ça nous donne cette possibilité. On ne l'utilise pas de manière... On ne l'utilise pas tous les jours, quoi, très clairement. Mais c'est quand même une utilisation particulièrement intéressante.
Ouais, mais ça fait quand même 240 euros.
Oui.
Ah, mais si je peux me permettre, nous on le fait aussi. Mmh. Et parfois, en passant par Internet, ça peut permettre d'obtenir les prix.
Bah oui.
Concrètement, les 240, on peut les retrouver.
J'ai pas eu le temps de le dire.
Je pose des questions. Oui.
Non, mais c'est pour ça que c'est pas intéressant. Mais...
Bon, peut-être. Bon.
Non, et puis il y a même des choses où on peut acheter que par site. Hein.
D'accord, ok.
Donc voilà.
Je crois pas. Donc il va être tout le temps.
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Taux de promotion, pour les avancements de grade. Donc, je vous expose que le comité technique paritaire, a été saisi par moi-même pour avis le 9 septembre 2019 concernant la fixation des taux de promotion dans le cadre de la procédure d'avancement de grade de l'année 2019. Le comité technique paritaire, dans le cadre de cette consultation, a rendu un avis favorable en date du 18 septembre 2019. Donc, monsieur le président de séance, vu l'article 35 de la loi 2007-209 du 17 février 2007, relative à la fonction publique territoriale, vu l'article 49 modifié de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, deuxième alinéa, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, propose à l'Assemblée d'arrêter les taux de promotion comme définis dans le projet de délibération joint à l'annexe. Bon, tous les ans, c'est la même chose. On a fixé tous les taux de promotion à 100%. Voilà. Vu le faible nombre de personnes concernées dans chaque catégorie. Question ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Modification du tableau des effectifs. Donc, j'informe l'Assemblée que l'agent en poste sur le grade de rédacteur principal deuxième classe prendra sa retraite le 31 décembre 2019. Autrement dit, que Madame Bernadette Ambert va prendre sa retraite. Le recrutement d'un nouvel agent a été opéré et je propose donc à l'Assemblée d'apporter une modification au tableau des effectifs comme suit afin d'avoir une période de recouvrement entre les deux agents et qu'ils puissent travailler du 15 novembre au 31 décembre 2019. Alors, sachant que là-dedans, il faut intégrer les congés de Bernadette, donc le doublon ne durera pas un mois et demi. Hein.
Ça ne fait pas beaucoup, là.
Alors, je termine ma phrase, je reviens sur ce que tu viens de dire. Création d'un poste d'adjoint administratif deuxième classe, 35/35, à compter du 15 novembre 2019. Donc c'est la création du poste. Madame Gladys Langelus. Alors Madame Langelus est déjà une personne qui a quand même pas mal d'expérience dans le domaine. Aujourd'hui, elle est secrétaire de mairie dans trois mairies différentes depuis déjà pas mal d'années. Elle est très polyvalente et elle s'occupe notamment des aspects de comptabilité. En plus, je crois que, de mémoire, madame, elle utilise le logiciel qu'on utilise déjà. Hein, c'est le logiciel de la société... mince.
C'est Magnus.
Non, c'est, oui, c'est pas Magnus. C'est Magnus. C'est Magnus. Voilà. Le tableau d'avancement de grade de l'année 2019 pour les agents de la catégorie C a été adressé à la commission administrative paritaire pour avis. Monsieur le Président présente propose à l'Assemblée d'apporter une modification au tableau des effectifs comme suit à compter du 1er décembre 2019 afin de permettre les avancements de grade sous réserve de l'avis favorable de la commission administrative qui se réunira le 10 décembre 2019. Création d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe 35/35 et suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe 35/35. Donc là, c'est une promotion interne pour ça. La création d'un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe assurant les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique, ASVP, 35/35. Et suppression d'un poste d'adjoint administratif assurant les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique, ASVP 35/35. La création d'un poste d'adjoint patrimoine principal deuxième classe, 32/32 heures/35, et suppression d'un poste d'adjoint du patrimoine, 32 heures/35. La création d'un poste d'adjoint technique principal deuxième classe, 35 heures/35. Et la suppression d'un poste d'adjoint technique, 35 heures/35. Voilà ce qui figure dans les modifications qui vous sont proposées. Alors en fait, il n'y a pas de... Enfin, dans la durée, hein, il n'y a qu'un nouveau poste, mais le nouveau poste qu'il y a, c'est un mois et demi, quoi, hein, c'est dans le cadre, c'est très transitoire. Il n'y a pas de création de nouveaux postes en tant que tel. Qui est contre? Pardon. Y a-t-il des commentaires?
Moi, je trouvais que ça faisait court, c'est tout. Si elle est déjà secrétaire...
Oui, elle travaille déjà dans ce domaine-là. D'accord. Elle travaille aussi beaucoup dans le domaine des élections. Donc, c'était aussi un rôle qu'assurait Bernadette. C'est important, donc elle connaît bien. Donc en fait, c'est vraiment une adaptation au poste sur place et pas une acquisition de compétences.
D'accord.
On est dans ce cadre-là.
Ok.
Donc qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Projet de service de restauration pour les personnes âgées. Donc il y a eu une réunion de travail. Qui s'est déroulé lundi 16 septembre 2019 avec les membres des commissions finances et petite enfance, et l'ordre du jour c'était le projet de création d'un service de restauration pour les personnes âgées de plus de 66 ans habitant la commune de Verberie et la rédaction au passage, c'est peut-être indiqué après, d'un règlement, oui c'est indiqué après. Donc la commission conduira une réflexion sur la faisabilité de ce nouveau service devant fonctionner au sein de la cantine scolaire située rue des Remparts. Elle définira les modalités de fonctionnement, les règles d'accès au service, la tarification qui permettront l'élaboration d'un projet de règlement. Ce projet, dès qu'il aura été établi, vous sera adressé pour examen. Il vous a été adressé un peu après l'envoi des convocations, mais vous avez reçu les convocations déjà. Hein. pour examen et sera présenté lors de la séance du Conseil municipal. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je crois que dans le règlement qui vous est soumis, on souhaite introduire une modification. C'est l'heure de fin du service, c'est ça Je laisse la parole peut-être à une personne qui veut évoquer le sujet, la référente du centre de restauration scolaire, par exemple.
Excuse-moi, j'étais avec le cahier.
Oui, je disais qu'il y avait
créneau horaire,
créneau horaire de modification.
Oui, le créneau horaire a été modifié.
12h15, 13h30, ça a été ravancé.
Oui, ça a été ravancé, effectivement, pour un confort de service.
Et maintenant, c'est
maximum, c'est 12h et 13h15.
Voilà, pour un confort de service, ça a été décalé d'un quart d'heure.
Alors, il n'y a pas qu'un confort de service, si j'ai bien compris. Il y a aussi le fait qu'en fait, à la limite, pendant un petit moment, les personnes risqueraient de se retrouver seules dans la cantine, centre de restauration scolaire, ce qui n'est peut-être pas souhaitable. Quoi. Si quelqu'un fait un malaise...
12h, 13h15.
12h, 13h15, bon, ça permet de prendre, je pense, c'est un temps correct.
Parce que les enfants quittent à 13h15 maximum, et on ne peut pas laisser des personnes adultes seules dans l'établissement si quelqu'un faisait effectivement un malaise. Sous la responsabilité du service de la société API qui, elle, termine son travail de remise en état du self et termine la vaisselle.
Est-ce qu'il y a... Alors, oui, il y a...
Alors, il fallait revoir pour l'effectif aussi.
Voilà. Bah, prenez la parole, Madame Jadot.
Oui.
Quand nous avons fait la commission, on avait un certain effectif qui nous était donné par les inscriptions. On a une famille qui est venue inscrire deux enfants depuis. Et Carole a aussi donné un dossier à un papa ce matin qui doit revenir. Ce qui fait que, notamment le jeudi, on n'aura plus 8 places. Alors je pense qu'il faudrait indiquer que la capacité d'accueil maximum journalière est de 6 et 7 aujourd'hui.
Mais qu'elle peut évoluer.
Mais qu'elle va évoluer.
Elle peut évoluer en fonction de
des inscriptions.
Des inscriptions d'enfants.
Très bien.
Inscriptions ou des inscriptions, ça peut arriver aussi.
L'évolution des effectifs.
En fonction de l'évolution des effectifs.
Bien sûr.
Est-ce que, moyennant ces modifications, ça vous... Parce qu'après, voir si vous y allez ou pas, vous pouvez peut-être voir ça en dehors du conseil municipal.
Toi, t'es trop jeune. Tu
as pu
te faire. Nous, on peut y aller, on est vieux.
Alors, le tarif du repas. Hein, c'est un sujet qu'il faut qu'on voit ici, puisqu'il n'est pas inscrit dans le règlement. En fait, dans le précédent, lorsqu'on a fait, on a voté une délibération sur les tarifs, conseil municipal du 8 septembre 2016, on avait un tarif personnel communal de 5,50 euros, un tarif extérieur, en fait, pour les enseignants, les gendarmes et les pompiers, à 6,50 euros. On vous propose de retenir le tarif à 6,50 euros. Personne extérieure, c'est quand même un tarif. Mais on est là pour discuter, hein, on est tout à fait ouvert.
Hein.
Les repas sont de qualité. Hein. Je pense que pour 6,50 euros, enfin, vraiment le centre de restauration scolaire, il est des repas. J'ai encore vu, moi j'y vais pas manger puisque j'ai pas le droit. Mais tout le monde me dit que les repas sont de qualité. Donc Madame Javelot, il mange de temps en temps. Et votre avis, bah, c'est ce. Oui, c'est, je peux comprendre que c'est vous confirmer. Voilà. C'est bien pour nos enfants d'ailleurs. Et c'est en circuit court. Non, c'est le jeudi et le vendredi, je crois.
Hein.
C'est indiqué, je pense. Hein,
c'est indiqué, oui, c'est indiqué. Pour le
et c'est à titre d'essai, oui, c'est vrai.
Ah, moi, j'ai tout lu, hein.
Bon.
Moi, j'ai tout,
j'ai
arrêté. Ah oui. Oui, on peut le dire.
Alors. On vous propose une autre Alors, on vous propose en fait trois modifications. La première modification, c'est sur les horaires. 12h, 13h15. La deuxième modification, c'est le prix, qui ne figure pas explicitement, à 6,50 euros. La troisième modification, c'est de dire qu'il y a même quatre modifications.
Non, le prix, ce n'est pas une modification du règlement. Le prix, c'est la marque qui est en part. C'est indiqué. Les tarifs sont fixés par délibération. Hein. On ne met jamais un tarif par règlement.
Ce qui est pareil judicieux. Donc il y aura une délibération pour le tarif à 6,50 euros, pardon. Il y aura aussi un ajout pour dire que aujourd'hui c'est 7 et 6 places disponibles, mais que ça peut évoluer en fonction des inscriptions. Et enfin, écrire que c'est une période d'essai de 3 mois. Jusqu'à la fin de l'année. Bon, normalement, ça devrait bien se passer. Mais
j'aimerais peut-être pas très favorable. Oui, parce que sinon, il va falloir le revoter.
On l'ouvre.
Sinon, il faudra lui mettre ça.
D'essai, il faut qu'on mouline ça.
Ça veut dire qu'il faut recommencer un vote en janvier.
On laisse comme ça.
Voilà. Bon, on ne met pas l'aspect période d'essai, on ne le met pas.
Non.
Hein, je retire. Voilà. Alors, moyennant les... Donc, je ne sais plus, c'était deux modifications, là, finalement. Et puis, le prix fixé à 6,50 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité.
Octobre.
À partir du...
Non, on retourne de...
Retour des vacances de Toussaint. Premier jour des vacances de Toussaint.
Ça sera la rentrée de la vacance de la Toussaint.
De Toussaint. Ouais. Donc 15 novembre, c'est ça? 4 novembre. Décidément,
le tarif, il est indiqué dans le
règlement. Non, il est à part. Il y aura une délibération à part.
Parce que dans un règlement, tu n'indiques pas le tarif.
Donc il faut avoir
délibéré.
Non, c'est déjà fait.
On va faire une délibération à part.
Non, c'est pas fait.
Non,
on n'a pas délibéré.
La note, elle est précisée. La note de synthèse, c'est noté dessus.
La délibération fixe.
Alors, créer un service, de fixer un tarif et d'approuver le règlement. Un projet.
On a voté les deux, en fait. C'est ce qu'il veut dire.
Oui, oui. Alors, je refais un vote pour... Donc, on a fait un vote pour le règlement. Est-ce que le règlement... Donc, je recommence. Qui est contre? Qui s'abstient? Comment?
On va faire les trois délibérations.
Bon. Ah, j'avais compris qu'on faisait deux délibérations. Une pour le prix.
Il y a la note de synthèse.
Mais non, mais le prix, c'est déjà fixé. Le prix, il est fixé dans la note.
Ah oui, pardon. Donc c'est Monsieur le Président propose à l'Assemblée de créer un service de restauration destiné aux personnes âgées de plus de 66 ans, domicilié dans la commune de Verberie à compter du 4 novembre 2019, de fixer le tarif à 6,50 euros par repas, d'approuver le règlement de fonctionnement présenté avec les deux modifications qu'on a évoquées.
Ouais.
Qui est contre? Qui s'abstient? Cette fois-ci, c'est bon. Adopté à l'unanimité. Toutes mes excuses pour ce bafouillage. Jardins familiaux et communautaires. Je laisse la parole à Madame Odile Arnaud.
Donc ce projet se situe sur la parcelle qui est en dessous du pont de TGV en direction de Pont-Saint-Maxence. C'est un espace qui représente 1,2 hectare de terrain. Donc un travail a été mené cet été avec un étudiant pour permettre de réfléchir comment implanter ce type de jardin. Mais au préalable, il faut s'assurer que les terrains puissent se permettre et on doit faire des études au niveau de la pollution de ces terrains. Donc là, on a besoin d'acter... Merci. On a besoin d'établir un diagnostic de recherche de pollution afin de s'assurer que les terrains peuvent accueillir ces différents types de cultures. C'est-à-dire d'abord des jardins, mais aussi il y a projet de planter un verger. Alors là, j'ai un plan. J'ai un plan qui a été...
Il y a des arbres. Allez-y, monsieur Fleury.
Qu'est-ce qui est ressorti de l'étude qui avait été menée et du questionnaire qui a été envoyé au directeur
Concernant les jardins.
Oui, concernant les jardins. Et quel a été le retour
C'est ça. Alors, justement, au niveau du retour, nous avons à peu près une centaine de retours positifs. Les gens sont intéressés. Pour un espace jardin particulier, mais aussi un espace type communautaire, pour travailler ensemble, pour faire des échanges de graines, pour faire des échanges de matériel, pour mutualiser et que ce soit aussi géré par une association qui permette aux gens de se retrouver. Voilà. Après, on l'appelle...
Et il y avait les ventes de graines en même temps qui étaient...
Après, il y a la vente, les échanges, etc.
Nous sommes dans un éternel recommencement.
Et puis, donc, les gens du voyage, ils vont servir et ils vont faire un échange. Voilà.
Standard. Donc l'idée, c'est effectivement, c'est de lancer une étude de faisabilité pour la création de ces jardins, donc familiaux, communautaires, voilà. Et pour commencer, il faut faire une étude de recherche de pollution.
À plusieurs endroits, on avait vu des hydrocarbures qui avaient été
à l'entrée, mais effectivement ça peut raviner avec les eaux de pluie, et donc la société qui a envoyé un devis prévoit 20 carottages. Sur tout l'espace du terrain, 20 carottages.
Laurence disait que si c'était pollué, on pouvait abandonner le projet parce que ça coûtait une fortune de dépolluer.
Voilà, c'est ça.
Il faut décaisser.
Alors après, ça va dépendre s'il y a de la pollution tout à l'entrée du terrain, parce que les gens en face auraient pu faire des vidanges, etc. Si ces pollutions n'ont pas raviné, si les hydrocarbures ne se sont pas étalés, on peut imaginer que cette première entrée de parcelle ne soit pas un espace de jardinage, mais un espace d'accueil.
Un jardin d'enfants.
Non, un espace d'accueil. Où on pose les bungalows, on décaisse, on fait quelque chose de propre, Et après, le reste, on peut le jardiner. Mais on a besoin de faire effectivement cette étude au préalable.
Et les parcelles, on ferait combien en surface, chaque parcelle?
Alors, au niveau des parcelles, pour l'instant, on n'est pas rentré trop dans le détail.
Il fait combien de terrain, là?
Un hectare. C'est un avant-projet. Et comme tu l'as très justement dit, avant d'aller plus loin, il s'agit de savoir d'abord si on peut aller plus loin.
D'où la demande de
Jean-Claude voulait dire quelque chose.
Alors, le prix, une estimation à 4 260 € TTC.
Alors, je suis désolé, je vais juste intervenir un instant. Effectivement, je pense qu'il est important que ce soit la société qui ait la responsabilité complète de l'affaire, c'est-à-dire savoir où ils vont faire les prélèvements, etc. Si nous, on n'est pas capable de le faire, et c'est une responsabilité qu'on n'est pas capable d'assumer. Évidemment, en fonction des résultats, la responsabilité de faire un jardin ou pas, ce sera la nôtre. Mais eux, ils assumeront la responsabilité sur la pollution du terrain et le compte rendu qu'ils en font.
Sur le résultat, c'est ça.
Jean-Claude ?
Alors moi, j'ai quelques petites questions à poser. Bon, ne le prenez pas encore mal ce que je veux dire, parce que j'ai parlé avec mon langage. Je trouve l'idée très bien. C'est super, parce qu'en plus, faire son jardin lui-même, c'est cool. Moi, je pense qu'il sera peut-être un peu pollué sur le haut, parce qu'avec les chantiers SNCF, TGV à l'époque...
C'est bien pour ça qu'il faut faire les carottages.
Voilà, ça je suis d'accord avec toi, il n'y a aucun problème, tout à fait d'accord. Par contre, il faudra faire sûrement des carottages, pas à 50 mètres, hein, c'est jusqu'à 2 mètres normalement, pour une étude de sol qui doit être redevenir agricole ou agriculture.
La société qui a été
quand tu fais que du potage,
du maraîchage. Du
maraîcher, merci Ferro. Et en fait, moi j'aurais voulu savoir si, mettons, ça devient un jardin. Donc ça sera sûrement un jardin de 30, 40, 50 mètres carrés. On va faire des parcelles de 100 mètres carrés. Parce qu'après, il faut quand même le faire. Hein, pour que les gens ils aient quand même du matériel. Parce que plus on a grand, plus il faut du matériel. Il faut de rideuses, tout ça. Enfin,
Moi, j'ai voulu savoir qui va financer, pour déjà, à mon avis, délimiter les parcelles. Ça va coûter combien? Parce que est-ce qu'on va en faire un bidonville?
C'est pas l'objectif.
Je suis en train de finir. Ou alors un truc sympa, comme il y a une liantelle, petit cabanon en bois, cuve à eau, nickel chrome, c'est magnifique. Il y a des arbres plantés, c'est magnifique. Ça, c'est très bien. Mais ça a un coût.
Oui.
Ouais, enfin, je crois qu'on pourra en discuter une fois.
Mais là, tant qu'on n'a pas le résultat d'étude, c'est difficile.
Mais ce qu'on peut quand même dire à Jean-Claude, c'est que l'idée, c'est effectivement de l'aménager.
Oui, ah, mais ça a un coût.
Ah ben oui, ça, il n'y a pas de miracle dans ce domaine-là.
Et qu'est-ce que ça va rapporter?
Rien.
C'est-à-dire ah bah rien.
Pas grand-chose.
C'est bonheur des gens.
C'est un service.
Ouais. Ça va éviter tout ce bruit aujourd'hui.
Alors, c'est un service, Jean-Claude. C'est un service, tout comme l'école est un service, tout comme la crèche est un service, tout comme la
MJC
est un service. Évidemment, mais c'est un service, comme la crèche, comme la MJC, comme les écoles.
Il y aura une participation, mais elle ne couvrira jamais...
Alors, vous louerez les jardins.
Oui,
oui, bien sûr.
Mais ce sera une participation. Elle ne couvrira jamais les frais.
C'est pas sans doute. Deviennent les jardins communaux de Capille.
Bah, ils restent.
En ce moment, deviennent-ils?
Ils sont complets. Hein.
Ça
les gens les utilisent depuis.
En fait, c'est un plus. C'est un plus pour un certain nombre de personnes qui voudraient jardiner et qui n'ont pas de place.
Très bien, moi
c'est surtout beaucoup pour les collectivités.
Très bien, on voit ça en retour aux sources. Et combien ça coûte?
Voilà. Et on travaillerait avec une association. Il y aurait une association de jardiniers qui serait sur place, qui prendrait en compte un peu l'organisation de la gestion.
Et puis en Valois, on a une association là-dessus.
Oui, mais toutes les villes, beaucoup de villes.
C'est bien géré, ils font des bourses aux graines, ils font tout ça. Mais voilà, eux, ils payent 70€ l'année. Par contre, ils ont un cabanon, ferme à clé, qui, par contre, c'est eux-mêmes qui fournissent leur cadenas normal. Voilà, ils ont une cuve à eau et ils sont clôturés de grillage. Par contre, si c'est dégradé, avec un petit pantillon, si c'est dégradé, ils ont un papier, c'est à leur charge.
Mais de toute façon, on reverra tout ça après.
Il y aura un aménagement, il y aura un règlement, il y aura. Bien. Je vous propose de passer au vote. Vous noterez que c'est une action qui est quand même plutôt dans le fil de l'écologie. Dans le fil social aussi.
L'écologique
mais dans
sociale.
Le fil social.
L'écologique et social. Éducative, c'est pour les enfants.
Oui, il y a des idées. Il peut y avoir des idées éducatives derrière. Ouais. Qui est. Je passe au vote là-dessus. Messieurs, un peu de. Alors.
Monsieur Lamy, s'il vous plaît, une définition du framboisier. Le framboisier est un arbrisseau et aussi un arbre. Sous forme de plantes à tiges dressées, cylindriques, pouvant atteindre 1,50 m à 2 mètres de haut.
Oh, ça va.
C'est un roussier.
J'étais pas très loin.
Moi, c'est un roussier.
Moi, je suis quand même pas si con, tu vois.
Moi, un arbre, c'est que j'aborde, c'est que je. Voilà, c'est pas un arbre.
Toujours est-il que si le terrain a le bonheur de ne pas être pollué, on pourra y faire effectivement des choses intéressantes.
Donc, je vous propose de lancer une étude de faisabilité de la création de jardins familiaux et communautaires sur la parcelle cadastrée AA63 située route de Pont. D'approuver la réalisation d'un diagnostic de recherche de pollution sur ladite parcelle estimée à 3 550 € hors taxe, 4 260 € toute taxe comprise. De prélever le montant de la dépense précitée sur un crédit suffisant qui sera inscrit sur le compte 2031 du budget de l'exercice 2019. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Bien, dernier point à l'ordre du jour. Merci, madame. Le rapport d'activité du SE 60. Donc, dans le rapport d'activité du SE 60, bon, c'est un syndicat qui marche bien. C'est un peu un syndicat quand même tentaculaire. Il y a, je ne sais plus combien de communes, 400 et quelques. Et puis, faut pas se leurrer. Là, il reste deux syndicats d'électricité sur le département,
Mais de toute façon, le sens de l'histoire, c'est qu'il n'y en ait plus qu'un. Même si là, le préfet a attendu et ne l'a pas fait. Nous avons donc le CGO et le SE 60. Donc, le SE 60, tout en allant, prend des compétences supplémentaires. Il a pris l'éclairage public. Pour l'instant, nous n'avons pas rejoint cet aspect éclairage public. On pourrait peut-être y réfléchir. Nous attendons, par contre, nous leur avons demandé un diagnostic énergétique gratuit sur le bâti communal. Je pense qu'on devrait, là, ils ont pris un peu de retard, mais on devrait l'avoir pour la fin du mois. Donc là aussi, ça fait partie, tout le monde travaille dans le même sens, en fait. Hein. Transition écologique, donc là, on fait diagnostic énergétique sur tout le bâti communal. Ils sont venus au début, en 2018, et puis là, ça a traîné un petit peu. Donc on va avoir un retour pour savoir où il faut qu'on s'améliore. Voilà.
Sur le premier rapport, vous l'avez terminé pour la fin de l'année.
Oui, enfin nous, c'est, oui, c'est ça. La fin de l'année, il m'avait dit un peu avant. Mais bon, on verra bien. Voilà, donc ce rapport, il n'y a pas eu beaucoup d'autres interventions sur Ververie, sinon que le SE60 est celui aussi auquel on fait appel pour le groupement gaz. Donc on a un groupement de commandes pour tout ce qui est gaz, hein, qui nous permet effectivement de gagner quand même pas mal d'argent sur le prix du marché. Et on a la même chose maintenant pour l'électricité. Hein, depuis déjà un an. Donc voilà, on travaille régulièrement avec ce syndicat. Évidemment, le rapport d'activité, il est consultable au secrétariat, mais vous, j'imagine, j'ai pas regardé, mais d'ailleurs c'est écrit ici, vous pouvez le télécharger sur Internet, donc vous pouvez regarder ça tranquillement de chez vous. C'est un communiqué et puis ils nous ont demandé une petite phrase d'indiquer qu'il est indispensable de préserver dans la future réforme territoriale les syndicats de grande taille faisant converger l'efficacité technique, économique et environnementale, tout le monde y est, hein, avec la solidarité sociale et territoriale. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Il nous demande d'ajouter ça dans outre de prendre acte du rapport, mais d'ajouter cette phrase dans notre c'est quoi, c'est une délibération, c'est une là, c'est, en fait. Un compte rendu.
Oui,
c'est un compte rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Relis-nous.
Alors, d'indiquer qu'il est indispensable de préserver dans la future réforme territoriale les syndicats de grande taille faisant converger l'efficacité technique, économique et environnementale avec la solidarité sociale et territoriale. Alors j'ai envie de dire que c'est vrai pour les syndicats d'électricité parce que les infrastructures à mettre en place, les compétences à acquérir sont très lourdes. Alors pour moi ça s'adapte aux syndicats d'électricité, ils nous le demandent. La phrase ne le précise pas parce que dans d'autres domaines le gros n'est pas toujours le mieux. Donc il ne faut pas forcément mutualiser, etc. C'est du cas par cas, mais dans ce cas-là, ça me semble à moi effectivement pertinent. Maintenant, les problèmes de ces syndicats de grande taille, c'est un peu leur gouvernance.
C'est ça aussi, c'est la gouvernance.
Alors, comment ?
Ben, ça ne concerne pas les syndicats de grande taille, je ne sais pas, mais bon, ça me semble...
C'est-à-dire ?
Les syndicats de grande taille...
Bah, il fait 460 communes, ou j'ai pas le nombre exact sous les yeux. De toute façon, un syndicat d'électricité, ça ne peut pas faire 10 communes. Hein. Bon, ils ont écrit ça parce que je pense que tout le monde est dans l'idée que sur le département d'Oise, il ne doit plus subsister qu'un seul syndicat d'électricité. Bon, c'est un appui à ça. Voilà. Moi, j'avais. Oh, c'est plus qu'ils veulent donner une orientation. Le préfet a marqué un stop là-dessus. Il a dit c'est trop sensible, j'arrête. Voilà. Mais c'est pas une délibération, hein, c'est dedans. J'avais envie d'ajouter la chose suivante. Alors, j'espère que je vais réussir à me relire. Ils doivent, comme c'est les syndicats de grande taille, moi c'est ce qui m'effraie un peu. Hein, parce que la gouvernance, là-dedans, les assemblées générales, ça ressemble à du... Qu'est-ce que j'ai marqué enfin, ça ressemble à des chambres d'enregistrement. Mmh. Il n'y a plus de discussion. Parce que quand vous avez un représentant... Alors là, ils ont un autre système par pôle, etc. Mais de toute façon, quand vous avez 460 communes à une réunion, vous imaginez bien que vous ne pouvez pas vous exprimer. Bon, maintenant, après, ils ont cherché des modes de représentation plus territoriales pour faire remonter l'information. En tout cas, j'avais envie d'ajouter la chose suivante. Ils doivent toutefois être attentifs à la transparence, à la qualité, à la diffusion d'une information de qualité adaptée à chacun de ses membres et à une gouvernance où les assemblées générales ne sont pas de simples validations des décisions prises par quelques-uns.
Ben ça, c'est un vœu pieux.
Oui, certes, mais c'est toujours pareil. Soit on ne le dit pas, soit on le dit.
Bah oui.
Bon.
Parce que oui, il vaut mieux.
Alors je. Après, oui, c'est pas facile quand on a 460.
Bah, parce que je sais pas.
Mais qu'on y fasse attention. Bon, avec l'ajout qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité.
Donc tu ajouteras ça ici.
Donc j'ajouterai ça.
Non mais c'est pour l'ajout.
Mais c'est pas une délibération, hein. C'est un avis. Je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est un retour.
On a quand même le droit de dire ce qu'on pense.
Oui, oui.
On a tout à fait le droit de... Si tu crois que ça sert à rien, d'avoir conduit la même chose.
Bien. Nous allons donc passer aux questions diverses. Alors, je vais les retrouver. Première question diverse. Je cherche. Première question diverse que nous allons aborder. Alors, c'est marqué FRMJC. Nous souhaiterions connaître les éléments qui ont justifié de se séparer de M. Dubois. Quels critères ont présidé au choix du nouveau directeur? Le conseil d'administration a-t-il été associé et comment? Point de situation quant aux conventions? Place des communes partenaires dans les décisions? Donc je laisse la parole à M. Patrick Stephen.
Merci. Bien, donc je vais répondre en tant que membre du conseil d'administration de la MJC aux points qui sont sollicités. Nous souhaiterions connaître les éléments qui ont justifié de se séparer de M. Dubois. Alors, en préambule, avant toute chose, je voulais quand même préciser que, puisque il y a des choses qu'on entend, qu'on lit, le directeur, je ne vais pas dire M. Dubois parce que c'est public, n'est pas licencié par son employeur, hein, pour le savoir, au jour d'aujourd'hui. Nous, on ne s'en sépare pas puisqu'on n'est pas... On n'est pas l'employeur, mais
c'est
mais
vous qui avez demandé de s'en séparer.
Je vais y venir. Donc, c'est déjà une chose qu'il faut savoir. Faut savoir aussi que l'employeur du directeur avait été informé depuis de nombreux mois qu'il devait quitter son poste depuis de nombreux mois. La présidente de la MJC avait également l'avait informé depuis le début mai de cette situation. Le directeur de la MJC était mis à disposition de la MJC suite à une convention signée en 2003 entre le maire de Verberie et le président de la FRMJC de l'époque pour le développement d'une politique en direction de la jeunesse et de la vie associative. Cette convention prévoyait un financement partiel du poste à hauteur déduction faite du fonds JEP de 80% par la ville de Verberie et 20% par l'ex-CBA au titre d'admission de coordinateur du contrat temps libre de la CCBA. L'arrêt du financement FONGEP et l'intégration de la CCBA dans l'ARC, la convention est donc devenue obsolète. On est d'accord là-dessus. Hein. De plus, la convention signée à l'époque ne prévoyait pas la gestion du périscolaire, les postes, enfin, les besoins ont évolué, ne prévoyait en aucun cas la gestion du périscolaire compte tenu de l'évolution de tout ce qui s'est passé. Hein.
Du périscolaire des autres villes.
Le seul périscolaire et des autres villes.
Dans le poste, le seul périscolaire, c'était celui de Verberie qui était mentionné.
Depuis l'intégration de la CCBA dans l'ARC, la ville de Verberie règle donc l'intégralité du poste du directeur de la FRMJC. D'accord ? On est d'accord jusque-là.
Mais avec la compensation des 20%.
On va y venir aussi.
Nous avons donc dénoncé cette convention en novembre 2018 pour l'application au 31 août dernier. Ça a été fait en conseil municipal, hein, ça a été fait à l'unanimité. Une nouvelle convention tripartite a été votée à l'unanimité le 20 juin 2019 par notre conseil municipal. Donc, nous l'avons tous vu à l'unanimité. À ce jour, le poste est vacant, compte tenu du fait que le conseil d'administration de la MJC n'a pas signé la nouvelle convention. Donc, tant que la nouvelle convention n'est pas signée par la MJC, la FRMJC ne signera pas la convention, enfin, pas la FRMJC, mais la coordination des Hauts-de-France ne signera pas la convention, donc, et ne met pas à disposition de directeur pour le moment.
Mais elle ça. Met à disposition...
Un chargé de mission.
Alors, pour le moment...
Sous quel statut juridique, puisque nous n'avons pas signé de convention.
Alors,
la convention tripartite n'étant pas signée,
on peut
mettre un chargé de mission.
On va y venir. Pourquoi on a mis un chargé de gestion
juridiquement...
On va y venir. Malgré cela, nous avions demandé auprès de la FRMJC à changer de directeur. Et c'est là où je veux répondre à la première question, eu égard aux différents griefs que nous avons à lui reprocher. Parce que nous lui avons reproché des griefs en conseil d'administration. Un courrier signé de l'ensemble des maires de l'ex-CCBA, vous n'étiez plus là, M. Fleury, à l'époque, avait été remis à la présidente de la MJC le 3 octobre 2016, mentionnant les manquements constatés et cachés au conseil d'administration par le directeur. Je peux aller dans le détail si vous le voulez.
Est-ce que son employeur lui a fait des remarques, lui a envoyé des courriers?
Là, vous lui posez la question. Moi, je ne suis pas son employeur.
Vous posez la question à l'employeur.
Là, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne suis pas son employeur.
Parce que c'est que son employeur.
Absolument.
Hein, bon, mais les pressions, ce n'est pas son employeur qui les fait.
Moi, ce que je peux dire, c'est que...
Moi, j'appelle ça des pressions.
Les pressions, non. Ce sont des pressions, ce sont des éléments factuels qui ont été notifiés en conseil d'administration de la MJC, par nous-mêmes à plusieurs reprises, signés dans un courrier de l'ensemble des maires que j'ai là, qui précise les faits réels de ce qui s'est passé, et des faits qui auraient pu être très importants.
Et lorsque vous donnez le conseil d'administration,
pénalement.
Il a été demandé le vote pour le maintien du directeur. Le vote était majoritaire des maires et du conseil d'administration pour le maintien du directeur.
Mais ils n'ont rien à maintenir puisqu'ils ne sont pas, l'employeur. Ils pouvaient voter ce qu'ils voulaient, ils ne sont pas l'employeur. L'employeur est mis à disposition par la FRMJ.
Mais le directeur. Alors, c'est l'employeur. Alors, l'employeur, lui. S'il y a des remarques à faire sur son travail, doit lui notifier. Donc aujourd'hui, sur quel critère on dit, l'employeur dit, monsieur Dubois, vous n'êtes plus apte à être directeur de la MJC. Tout simplement parce qu'on lui dit, si vous maintenez votre directeur, on n'est pas convention.
Non, pas du tout, puisque la convention n'existe plus. Puis et qu'on a signé la nouvelle convention.
C'est bien pour ça que j'avais dit à l'époque, lorsqu'on dénonce une convention, hein, on la dénonce. Et on la re-signe le jour même, et en ayant tout été étudié autrement, qu'on la signe un an après, c'est
monsieur,
que...
Non,
j'avais prévenu à l'époque, alors, et j'avais attiré l'attention.
Alors,
j'avais senti le coup venir.
Non, c'est pas comme ça que ça pouvait se passer, monsieur Fleury. Nous l'avons signé, nous l'avons voté le 20 juin. Je l'ai signé le 28 juin. Je l'ai adressé à la MJC. Je l'ai aussi adressé, pour que ça serve de texte de base, à l'ensemble des maires de la CCBA. Mais le problème, c'est qu'entre le 28 juin et le 1er septembre, dans les autres communes, rien ne s'est passé. Parce que au 1er septembre, il fallait que, effectivement, dans les autres communes, sauf Saint-Sauveur, il fallait effectivement que la convention soit re-signée, qu'une convention, des conventions tripartites avec chaque commune soient re-signées.
Nous avons travaillé sur cette convention depuis janvier.
Non, mais moi, je ne parle pas de la convention. Je parle de
la nouvelle convention.
Vous venez de parler de la convention.
Mais tu disais tout à l'heure qu'il fallait signer tout de suite. On a travaillé depuis janvier conjointement avec la MJC, puisque c'est une tripartite, la FRMJC. On a eu 5 ou 6 réunions là. On s'est tous mis d'accord sur cette réunion. Il y a d'ailleurs un courrier de la FRMJC qui le justifie. Et jusqu'à la veille ou l'avant-veille d'ailleurs du conseil municipal où la MJC voulait modifier un texte qu'on a modifié comme il le voulait. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui qu'on a laissé traîner les choses. Ce n'est pas possible. Depuis le mois de janvier, la convention était en cours. Donc là-dessus, c'est quelque chose de factuel. Alors, je reviens quand même sur... Tu disais, on a apporté des pressions. Mais quand
Est-ce Cimer... qu'il y a eu des courriers faits à la fédération...
Il faut demander à l'employeur.
...demandant que nous soit retiré.
Nous avons...
Est-ce qu'il y a eu des courriers
du
ou
tout.
Est-ce qu'il n'y en a pas ?
Nous n'avons fait aucun courrier au directeur demandant qu'il soit retiré. Nous avons mis en garde...
Au directeur de la fédération ?
Non. Nous avons
il
mis
a
en...
jamais eu de courrier ?
Non. Nous avons mis en garde la présidente de la MJC sur la situation de travail de nos conformes de salariés, sur des inquiétudes de fonctionnement technique de l'organisation, de difficultés relationnelles entre le directeur et le personnel, de démission de membres du bureau, la trésorière et la secrétaire qui ont démissionné du fait du non-respect par le directeur de décisions prises par les administrateurs. C'est quand même très important, ça, quand même. Sur le plan...
Oui, enfin, le sujet, moi, je le connaissais.
Oui.
C'était sur une...
C'était quoi ?
C'était sur... d'ailleurs, c'est sur une prestation qui avait été donnée, qui avait rapporté de l'argent à l'AMC. Ben,
Conseil d'administration dit non à la mise en place d'un loto fait par une société privée et que le directeur le met quand même en place, vous m'avouerez quand même que dans une société, ce serait dans le privé, quelqu'un qui ferait ça, il aurait une lettre de licenciement. On n'en est pas là. Si...
Non, mais monsieur Floris, cautionne
vous,
ce principe.
Vous le cautionnez, c'est votre problème.
C'est son droit.
Ah oui, ben voilà. Mais moi, je considère ça comme quelque chose de grave, parce que ça vient se cumuler à d'autres choses. Voilà, c'est ça.
Je vais plus loin. Je vais pas terminer. Alors, pourquoi au niveau du conseil d'administration, sur 12 ou 13 que vous étiez que 3 à ne pas vouloir que le directeur continue.
Il n'avait pas le droit de continuer,
non,
puisque le directeur est salarié de la FRMJC et la nouvelle convention tripartie était mise en place par les coordinations des Hauts-de-France.
Mais
je ne comprends pas, parce que M. Floury, on va répondre à la question d'Ivette, parce que M. Floury, il est au conseil d'administration.
Non.
D'accord.
Alors, je continue quand même, parce que sur le plan financier, verset apparemment non encaissé, enfin, ça a quand même coûté de l'argent à la MJC, et donc à nos citoyens, parce que c'est quand même nous qui donnons de l'argent en subvention.
Ça, on peut rien vérifier.
Pardon ?
Ça, on peut rien vérifier.
Ah si, c'est vérifiable. Ah ben, c'est vérifiable, et ça a été vérifié. Bien sûr.
Bien ça, sûr. C'était en 2016.
Hein. C'était en 2016, c'était vérifié. Ce qui est noté là, c'est... Les CIMER n'auraient pas signé ce courrier-là si ça n'avait pas été vérifié, hein, croyez-moi. Hein. Bon. Surtout M. Picard.
Et
monsieur...
alors pourquoi ils souhaitaient le garder après ?
Ah, ben c'est leur problème, c'est pas notre problème à nous. Eux, ils ont changé d'avis, ils ont fait comme vous.
Non,
voilà.
Ils n'ont pas changé d'avis,
c'est qu'ils ont considéré que. Non. A priori, ils n'étaient pas à l'époque. Donc, simplement, nous, on tient un langage qui est clair, ça a toujours été clair auprès du conseil d'administration de la MJC, et on se tient dessus. Voilà. Donc, il est évident qu'on ne souhaitait pas le conserver, ça c'est évident. Mais le fait de changement de convention fait qu'également, il ne pourrait pas être mis en poste. Voilà.
C'est d'ailleurs un argument qu'a utilisé la fédération régionale. Voilà.
Aujourd'hui, la fédération régionale.
C'est comme ça.
Le 25 ou le 26 septembre, hein, si on continue ou bien.
Alors, pourquoi il y a quelqu'un qui a été remis en place ? Simplement parce que le vendredi de la rentrée scolaire, la présidente de la MJC, donc sans en avertir le conseil d'administration ni les mairies,
Ni les salariés.
Mais qui en est responsable juridiquement ? C'est la présidente qui est responsable.
Non, mais...
C'est ni le maire, c'est le président de
l'association. Je termine. Non.
C'est elle et elle seule qui est responsable.
À envoyer à tous les parents qui mettaient leurs enfants au périscolaire un SMS en leur disant que le périscolaire n'accueillerait pas leurs enfants le lundi. Ça, le vendredi soir.
Oui,
moi, je considère ça comme quelque chose de totalement irresponsable. Excusez-moi.
Non, mais attendez. S'il y avait un accident, s'il y avait qui était responsable ?
Pas le vendredi soir.
Je vous pose une question. Il y a un accident. Qui est responsable ? Il n'y a plus de tel, il n'y a plus de directeur.
Alors,
la présidente
je reviens là-dessus. Il n'y a pas de directeur. L'année d'avant, le périscolaire, l'année d'avant, a ouvert sans directeur. La preuve, il était en vacances. L'année d'avant, je continue. Non, non, mais l'année d'avant, le directeur n'était pas là le jour de la rentrée périscolaire. Il était en maladie. Et puis le périscolaire, c'est...
Il existait. Juridiquement, c'est pas pareil.
Il n'est pas nécessaire. La FRMJC nous a précisé qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir le périscolaire avec un directeur ou pas, à partir du moment où nous avons des directeurs et directrices de centre qui sont sur place et qui sont responsables du périscolaire.
Et c'est eux qui sont agréés.
C'est pas le directeur.
Pour faire simple, avant d'envoyer un mail
on
appelle les maires, on leur dit, est-ce que vous ouvrez sous votre responsabilité ? Moi, pour le coup, ça me posait aucun problème, surtout que la directrice de centre, je pense qu'elle est efficace. Et c'est d'ailleurs à la fin, puisque finalement la Fédération régionale a envoyé un chargé de mission pour les deux communes qui avaient signé la convention, mais ce chargé de mission ne couvre pas les autres communes. Dans les autres communes, ça a ouvert sous la responsabilité du maire. Donc dès le début, ça pouvait s'ouvrir sous la responsabilité du maire. Deuxième point, nous avions téléphoné avec Patrick Stephen le vendredi, parce que nous, quand on a vu ça, on n'est pas resté sans rien faire. On a appelé effectivement la fédération régionale en disant il faut faire quelque chose, ce qu'aurait pu faire aussi d'ailleurs la présidente de la MJC, et on a demandé immédiatement avoir une réunion avec la présidente. Réunion à 18h30, nous on avait la solution, on avait les éléments de réponse, le mail a été envoyé à 16h30 ou 16h40.
La présidente de la MJC a interrogé la fédération non. plusieurs reprises et a fait des demandes.
Non, elle n'a pas. J'ai vu passer des... Elle a fait des mails, ça oui. Si on considère que quand on a fait un mail, on a réglé le problème, c'est pas bon.
Moi,
j'ai fait un mail, ça ne répondait pas. J'ai appelé, j'ai dit il faut me rappeler d'urgence.
Comment
et
les municipaux ont les éléments de ce qui se passe dans la MJC. Moi, ça me pose quand même problème.
Écoutez, dans la foi d'avant,
sont au courant de ce qui se passe. Moi, ça me pose question.
C'est une vraie question.
Moi, ça m'interroge.
Enfin, je vois que vous êtes bien au courant du dossier.
Moi, ça m'interroge.
Personnellement,
j'ai pas autant d'infos que.
Puisque, à temps partiel, M. Dubois était en formation, à ce moment-là, c'est quand même moi qui suis intervenu en disant attendez, il faudrait peut-être que la FRMJC nous fournisse un remplaçant. Et ce n'est pas la présidente qui est intervenue. Voilà, je te laisse continuer.
Alors, donc, deuxième question. Quels critères ont présidé au choix du nouveau directeur ? Donc, aujourd'hui, le choix du nouveau directeur, il n'est pas fait, puisque la FRMJC a mis en place un chargé de mission en attente que tout ça se solutionne et que les conventions puissent être signées. Le futur directeur, il sera mis en place quand les conventions seront signées.
Et conformément aux conventions.
Pour le futur directeur, un profil de poste, parce qu'il y a une question qui concerne ça, qu'on a tous eu, avait été annexé lorsqu'on a signé la convention. Donc le profil de poste, on sait exactement ce qu'il faut comme personnel et comment il sera mis en place, puisque tout est défini dans la convention.
Mais
c'est la question. Quels critères ont présidé au choix du nouveau directeur ?
Moi, je réponds à la question. Il n'y a pas de nouveau directeur, mais pour l'instant, il joue le rôle de directeur.
Il ne joue pas le rôle de directeur.
Il joue le rôle de chargé de mission.
Est-ce qu'on a pris en conseil municipal une décision municipale pour mettre qui est un chargé de mission, puisque c'est nous qui payons ?
Pour le moment, on ne sait pas qui paye. C'est la FRMJC qui a mis à disposition. C'est la FRMJC, c'est leur problème à eux, c'est pas notre problème à nous aujourd'hui. C'est la FRMJC qui a envoyé quelqu'un.
Mais c'était dans l'urgence.
On est des gens qui payent nos dettes.
C'est quand même un problème. C'est pas un directeur,
c'est un chargé de mission.
C'est un chargé de mission.
Qui est intervenu dans l'urgence. À la demande d'ailleurs de la présidente.
Bon,
voilà. Alors, dans les faits qui n'ont pas été dit là, les faits récents, je rappelle qu'en 2018, il y avait eu des arrêtés préfectoraux qui ont été pris pour annuler effectivement des agréments jeunesse et sport.
que... Mais que ça n'était pas... Attendez, les agréments, ça incombe aux communes.
Non, non. Non, non. Non, non. Non, non.
Le courrier, il est fait au directeur.
Non, non. Le courrier, il est fait au directeur. Ouais. C'est le courrier de la DDCS. Il y avait eu un... Attendez, vous me laissez... Non. Vous me laissez... Donc, avant l'arrêté préfectoral, il y avait eu des mises en demeure. Non suivi des faits, non... Enfin, je... Voilà. Et après, il y a eu les arrêtés préfectoraux. Alors, la moindre des choses, c'est que les membres du conseil d'administration soient prévenus, avertis. Évidemment, cette affaire-là a été cachée.
Je dis bien... Elle a tourné d'ailleurs même fusée, à bien... Hein, c'était bien dans son rôle, elle a dit que c'était elle qui en avait.
Bah, c'est pas comme ça que c'est précisé dans le courrier.
Ah,
hein.
Oui, mais...
Bah, oui, mais
monsieur,
ce que dit
Mme
Fuget,
Monsieur Floury, vous êtes au conseil d'administration pour avoir les détails.
Il n'est plus au conseil d'administration, monsieur Floury.
De où tenez-vous ces informations-là, monsieur Floury?
Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des choses qui sortent de la MJC.
Vous dites des choses alors que vous n'y êtes pas.
Madame Fusée dit des choses. Madame Fusée dit des choses, mais les écrits sont... C'est les écrits. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Et la moindre...
Elle a le droit de dire ce qu'elle veut.
Et la moindre des choses...
Mais un écrit, c'est un écrit.
La moindre des choses, c'est que les administrateurs soient mis au courant. J'ai mis, pour récupérer ces papiers que j'ai demandé en tant qu'administrateur, qui étaient datés de début 2018, janvier 2018, plus d'un an. Plus d'un an. Pour les obtenir. Oui. Ensuite, il y avait eu effectivement une inscription pendant l'été 2018 et la mise en place d'activités pour les enfants sans déclaration à la préfecture. La lettre de la DDCS, elle était particulièrement gratinée. Je vous rappelle qu'elle est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, etc. Elle était... Bon, voilà, ça c'est la lettre de la DDCS. Ensuite, moi en tant que maire... J'ai pas apprécié, mais alors pas du tout, l'affaire des enfants des mariages qui étaient pris à la MJC le soir pour dormir. Qui a donné cette autorisation? Il paraît que ça se faisait depuis longtemps. Donc j'étais déjà intervenu en 2017, j'avais dit ça c'est terminé, parce que de toute façon les locaux que vous avez, ils n'ont pas les agréments sécurité pour servir de locaux de sommeil, et encore moins avec des enfants en bas âge. Derrière, à l'été 2018, je me suis rendu compte qu'en dépit de ce que j'avais dit, parce que je n'avais pas demandé ce que ce soit inscrit au compte-rendu du conseil d'administration, ça avait continué. Cette fois-ci, je suis de nouveau intervenu et j'ai dit maintenant, je demande que ça cesse immédiatement. Il serait passé quelque chose la nuit avec les enfants. Qu'est-ce qui serait arrivé là? Il y aurait eu l'incendie, je ne sais pas quoi, personne ne souhaite ça, c'est clair. Qu'est-ce qui serait arrivé? Pourquoi on fait des choses comme ça par derrière? Pourquoi on n'est pas prévenu de tout ça? Moi, je n'ai pas été prévenu du fait qu'il n'y avait pas eu d'inscription d'autorisation pour le séjour adolescent en 2018, pour lequel on a d'ailleurs prêté des salles. Je n'ai pas été prévenu. Hein.
Et les familles payées.
Vous dites oui, pourquoi la FRMJC, etc. La FRMJC s'est rendue compte elle-même, a dit il y a un problème. Il y a un problème, problème de compétence, il y a un problème. Voilà, sur ces affaires-là.
Je reviens d'ailleurs sur une chose. On n'a jamais d'ailleurs dit que le directeur de la MJC était un mauvais animateur, mais qu'il ne convenait pas comme directeur. Or, on salarie un directeur, on ne salarie pas un animateur. Voilà, les animateurs, on en a. Et aujourd'hui, il est reconnu pour être un excellent animateur et très apprécié de tout le monde. Je le comprends bien, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Alors, troisième question, le conseil d'administration a-t-il été associé et comment? Alors, par contre, associé à quoi? Associé au recrutement du directeur, c'est ça? Du nouveau directeur?
Oui. C'est prévu.
Alors, c'est prévu dans la convention. On l'a dans l'article 2D de la convention. Hein. Donc, le recrutement du personnel de direction fera l'objet d'une procédure partenariale réunissant 4 représentants du conseil d'administration issus à part égale du collège des adhérents et du collège des représentants de la commune, ainsi que de délégués régionaux de la coordination des Hauts-de-France. Bon, voilà, là, c'est très clair. Cette commission pourra comprendre d'autres représentants des collectivités partenaires concernées par le projet de la MJC. On peut même y intégrer d'autres personnes.
Bah, c'était pour laisser la porte ouverte aux autres communes.
Voilà. La commission, et c'est la question après qui reviendra, la commission de recrutement respectera les modalités de recrutement telles qu'elles sont mentionnées dans le profil de poste annexé. À l'issue du processus de recrutement, la commission de recrutement présentera ses conclusions au conseil d'administration de NJC pour validation du choix du candidat retenu. Voilà, c'est clair.
Ah, pour le nouveau directeur, oui.
Non, mais bah, voilà. C'est, bah, c'est, voilà, ouais, c'est l'associé. Ça, c'est
pas sur le... Rien ne figurait dans la convention de 2003. Ah, mais c'est
oui. Point sur la situation quant aux conventions. Ben, aujourd'hui, les conventions ont été signées par les conseils municipaux de Saint-Sauveur et de Verberie. Ailleurs, je ne sais pas, il faut voir ça avec la présidente de la MJC. Les autres maires n'ont rien signé. Donc, est-ce je ne sais pas, puisque ce sont des conventions tripartites. Ben, ce sont des conventions tripartites, donc chacun fait ce qu'il veut dans ses conventions.
Et est-ce qu'ils ont, au niveau du conseil d'administration, après un droit à la parole ?
Ben, ils sont évidemment, conseil d'administration, ils sont conseil d'administration. Mais ça, ce n'est pas la convention. Ça, c'est le fonctionnement normal d'une association.
Après, aujourd'hui, ils ont la parole, hein, ils la prennent. Hein.
Oui, ouais.
De temps en temps.
Ouais,
de temps
en temps. Voie de presse.
Quand ça les intéresse.
Mais évidemment qu'ils ont la parole. D'ailleurs, voilà, je considère qu'un membre du conseil d'administration, il est là pour le conseil d'administration, donc il doit avoir, peut poser des questions sur l'ensemble du fonctionnement de la MJC. C'est ce qu'on m'a reproché d'ailleurs.
Alors, place des communes partenaires dans les décisions. Alors, donc, on vient d'en parler, hein, chacun au conseil d'administration peut dire ce qu'il veut, hein, de toute façon. Par contre, il y a une décision qui a été prise il y a au dernier conseil d'administration, c'est concernant le coût financier de toute cette opération. Parce que jusqu'à présent, la ville de Verberie payait aux alentours de 60 000 euros, hein, dans ce cadre-là. On a donc défini un tableau de répartition en fonction d'une clé de répartition bien précise, validée par l'ensemble des maires. Bien d'accord là-dessus.
Ben, il y en a encore qui réfléchissent.
Il y en a encore qui veulent réfléchir, mais bon...
Mais ils n'ont pas proposé autre chose.
On a globalement validé ça, ce qui fait que pour Verberie, puisque moi je parle pour ma commune, le montant global sur une répartition moyenne, ça peut évoluer, hein, on a mis 60 000 euros pour partir d'un chiffre rond, les activités, le périscolaire, l'extrascolaire, et la partie activité de la MJC coûterait à Verberie, sur le coût du poste du directeur, 32 209 euros. Quand même, pour Verberie, quand même, un petit peu d'économie. Hein. Puisque là, jamais aucune commune n'avait participé au coût du poste de directeur.
Mais
à ça va venir s'ajouter...
Attendez, la, je termine. Les
20% de la CCDA... Bah, non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
C'est le temps libre. Ça n'a rien à voir sur le périscolaire.
Ça n'a rien à voir sur le périscolaire. À ça, on va venir rétrocéder à chaque commune, on en parlait tout à l'heure, la partie de l'attribution de compensation sur la même clé de répartition que celle-ci. Reste à définir pour Béthisy, voir comment on va faire, puisque Béthisy-Saint-Pierre ne fait pas partie de la MJC de Verberie. Mais il lui sera restitué sa part de la même façon.
Ça, c'était voilà, dans la convention qu'on a voté.
Et c'est d'ailleurs à notre demande que ça a été fait. Aucun maire n'en avait parlé. Hein. C'était passé dans l'oubli.
Pas dans le mien.
Hein. Ah non, mais les gens qui sont au conseil d'administration de la MJC auraient pu en parler. Voilà, donc en ce qui concerne les décisions qui ont été prises.
Et on attend que les autres communes réfléchissent si possible rapidement sur cette affaire-là. Parce qu'il serait bon que elles présentent leur convention rapidement, sachant qu'elles ont quand même un support, c'est celui qu'on a rédigé. Bon, après, elles modifient des choses. Mais vous avez vu que nous, ce qu'on a mis en place, que ce soit pour le recrutement du nouveau directeur, il permet tout à fait que les autres communes disent « Moi aussi, je vais être présente lors du recrutement du nouveau directeur. » Et de toute façon, ce sera validé en conseil d'administration. Au moment où la FRMJC ou la coordination des Hauts-de-France présentera, suite à la commission de recrutement, présentera un candidat. Voilà. Donc, voilà. Ils
serait bien qu'on reprenne le cours normal des choses. Voilà pour cette question. Comment ?
Bien sûr, mais il est évident que de temps en temps, il faut aussi mettre, je dirais, les pieds dans le plat, hein, parce que quand on voit l'énumération des choses qui ont été faites, cachées à tout le monde, peut-être, c'est facile de dire ouais, mais quand on est au conseil d'administration d'une association, moi je suis désolé, il faut voir les choses de très près. Il ne faut pas dire ouais, moi je... C'est pas comme ça que je vois les choses. S'il y a quelque chose qui va, il faut le dire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire aussi. Mais seulement, c'est ce que j'ai précisé au dernier conseil d'administration, peut-être que le conseil d'administration a des responsabilités, peut-être, sur la globalité, parce que si, dès le départ, le directeur avait été mis, je dirais, entre parenthèses, en position et en lui disant « Attention, tu fais ceci, tu fais cela, il y a des problèmes qui ne vont pas », par la présidente, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui et que tout tournerait bien. Voilà.
Mais attendez,
et c'est pas d'aujourd'hui ça. Hein.
Mais pas par la présidente, par son employeur.
Par le conseil d'administration. Comment son employeur peut-il le savoir si la présidente ne leur dit pas?
Eh bien, l'employeur, peut-être qu'il vient au conseil d'administration.
Mais il y est. Hein, il y est, mais si c'est caché, on ne peut pas le savoir. Tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure.
Bien remonté à la fédération.
Non. Tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure a été caché. Je suis désolé. Non, mais là-dessus, je ne reviendrai pas dessus. Tout ce que j'ai énuméré a été caché. Voilà.
Je vous propose de passer à l'autre question.
Bien sûr. Ah oui, mais c'est difficile à admettre, je sais, je comprends bien.
Je ne suis pas d'accord sur tout.
Non, pas d'accord. Ah non, bah oui. On empêchera pas de te saluer.
Sécurité. Alors, nous souhaiterions avoir un point complet sur la situation préoccupante que nous connaissons depuis plusieurs semaines. Donc, je vais vous faire un point. Donc, les événements ont commencé après le 14 juillet, avec la canicule. Depuis le 1er septembre, leur intensité a notoirement baissé. Mais il y a tout de même eu, depuis le 1er septembre, 8 interventions de la gendarmerie sur place et d'autres de la police municipale. Des comportements insupportables, alcool, drogue, nuisances sonores, insultes vis-à-vis des locataires, menaces, rixes, pour les riverains de la part d'une dizaine d'individus parfaitement identifiés, 10 sur 4000 habitants. Ce n'est pas un problème d'immigration. Ce n'est pas non plus un problème de jeunes, certains ont pratiquement 40 ans. Ce sont quelques habitants résidant depuis longtemps sur la commune et quelques personnes n'habitant pas la commune. Donc dans les dégradations, il y a eu effectivement au total 12 véhicules qui ont été brûlés, dont 3 épaves, donc des véhicules qui n'appartenaient à personne, hein, quasiment, voilà, et 2 incendies identifiés comme résultant probablement de différents personnels avec le propriétaire. Parce que maintenant, il y a une grande mode, c'est quand on n'est pas d'accord avec sa petite copine, on lui brûle sa voiture. C'est tellement plus sympa. L'incendie à Notre-Dame-des-Monts. Bon, Notre-Dame-des-Monts, ce qui a brûlé, c'était de toute façon abandonné, mais le problème majeur...
C'est quand même inadmissible, quand même.
C'est quand même, oui.
Attends. Non, mais bien sûr. T'entends. Bien sûr. Et j'ai pas dit le contraire.
Bien sûr.
Et le problème majeur derrière ça... C'est quand même que le feu qui a été mis, il y avait quand même des habitations à proximité. Heureusement que les pompiers sont arrivés à temps. Heureusement que les moyens supplémentaires qu'ils ont demandés ont été immédiatement disponibles. Parce que les maisons du... c'est pas près d'Aramont.
Notre-Dame-des-Monts.
Oui, l'ensemble Notre-Dame-des-Monts derrière. De Ruquier et rue d'Aucourt. Il y a des maisons qui sont tout à côté.
Tout à fait proches.
Les pompiers n'étaient pas très fiers quand je suis arrivé là-bas. Mmh. L'adjudant-chef, qui y était, m'a dit j'ai eu la chance que le deuxième véhicule était tout près. Tentative d'incendie de notre domicile personnel. Donc, merci aux pompiers, d'ailleurs, parce que c'est parce qu'il y a eu l'incident à Notre-Dame-des-Monts que les pompiers m'ont appelé, que je me suis levé, que j'ai vu que la maison était en train de prendre feu. C'est quand même ça, la réalité derrière. Et puis, il y a eu une tentative d'incendie à la maison de Madame Corneille, où on a mis le feu au bois. qui était contre la maison. Madame Corneille, elle habite rue
Chemin de Capi.
Voilà, il y a eu aussi un incendie des Molochs pour, clôturer le tout. Comment ? Alors là, bon, moi je reste sur Verdurie.
Ouais, enfin, on est à 2 mètres. Hein.
Non, non, on n'est pas à 2 mètres. Ouais.
C'est de l'autre côté.
Voilà. Et ouais, je n'ai pas les éléments là-dessus. Donc je ne m'exprime pas.
On n'est pas à 2 mètres, mais on est à 6 mètres.
Ouais. Oui,
en face.
Oui. Mais moi je n'ai pas les éléments.
Et le chemin qui mène est sur Verdurie.
Ouais. Ah. J'ai pas les éléments. Mais néanmoins, tout ça, comme l'a dit Jean-Claude, est complètement inadmissible.
Inadmissible et puis punissable, très sévèrement.
Moi, j'ai foutré dans le
cul. Ah, moi, j'en mettrais.
Alors.
Carrément, il dirait ce que ça fait.
Vous savez qu'aujourd'hui, même quand vous avez parfaitement identifié les gens, il faut les placer, il faut démontrer les choses vis-à-vis de la justice. Donc, des personnes ont été placées en garde à vue tout le week-end, d'autres le sont depuis ce matin. L'enquête avance. Je serai reçu prochainement par le procureur de la République le 4 octobre. Il m'a demandé de passer le voir.
Je voudrais, quand même, est-ce qu'ils ont dit pourquoi ils avaient fait des horreurs pareilles ?
Pour l'instant, c'est le temps de l'enquête. Moi, j'ai pas. Une enquête, c'est confidentiel. Et en tant que maire, j'ai pas accès aux éléments de l'enquête.
Parce que quand même, foutre le feu, c'est quand même.
Et combien de personnes ? Vous savez le nombre de personnes en garde à vue ?
Pour l'instant, là, il y en a deux qui sont en garde à vue.
D'accord. Mais attends.
Ah, mais qu'est-ce qui a mené à une déferlante de violence comme ça, d'un coup d'un seul, il y a eu quand même une étincelle.
Alors je vais reprendre là-dessus. Comme je l'ai dit, tout ça a commencé au moment de la canicule. Vous avez quand même des gens qui habitent Saint-Exupéry, qui se sont retrouvés avec des comportements, comme je viens de le dire, hein, alcool, drogue, nuisance sonore, insultes, menaces, rixes, à une période où, en plus, il est très compliqué de dormir. Nous sommes donc retrouvés avec des résidents qui étaient privés de sommeil. Alors, l'affaire de la privation de sommeil, je voudrais quand même rappeler qu'en droit international, c'est une torture. Ça a été d'ailleurs largement utilisé. Chez nous, c'est une incivilité. Vous avez le mot qui ne veut vraiment pas dire grand-chose. Chez nous, c'est une incivilité. Mais derrière, les gens qui dorment pas de la nuit et qui vont travailler à 5 heures du matin, au bout de 5 jours, mais il y a de quoi sortir un fusil. Hein. Vous devenez complètement fou, quoi. Bon, voilà le contexte dans lequel ça s'est passé. Picardie Habitat a mis en place des vigiles, d'accord, sur place. Parce qu'on a dit à Picardie Habitat, messieurs, c'est quand même les bâtiments que vous gérez, donc il faudrait réagir. Pourquoi il y a eu des rixes ? Parce que des habitants sont sortis et ont dit et arrêtez tout ça. Donc on leur a frappé, on leur a tapé dessus. J'ai été présent là-bas plusieurs nuits de suite, jusqu'à minuit ou jusqu'à 1h du matin. J'étais sur place. Contrairement à ce qui a pu être dit, je n'ai jamais insulté personne. C'est vraiment pas dans mon comportement. Maintenant, ne me dites pas que j'aurais dit que ce qu'ils faisaient, c'était bien. Mais je n'ai jamais insulté personne. Voilà le contexte dans lequel tout ça s'est passé. Et la gendarmerie a également mis en place des dispositifs. Et comme les dispositifs commençaient à se mettre en place, enfin, se mettaient en place, et qu'il y avait... ça gênait ces personnes... Eh bien, on a commencé à avoir tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, il y a eu effectivement 6 véhicules qui ont brûlé au Merlet. Je suis incapable de dire si la volonté, c'était de faire brûler un véhicule ou si la volonté d'emblée, parce que après, c'est à proximité, si ça visait, en clair, une personne précise ou simplement s'il s'agissait de faire brûler. Ça, je suis incapable, évidemment, de le dire. Donc derrière ça, Picardie Habitat a envoyé un courrier à un certain nombre de locataires en les indiquant, leur indiquant que les menaçant d'expulsion, très clairement. Bon, il y a des procédures à mettre en place derrière, mais moi je considère que des gens qui se conduisent comme ça, ne me dites pas que j'ai fait pression sur Picardie Habitat, des gens qui se conduisent comme ça, ils n'ont rien à faire, ils quittent l'endroit. En parallèle, je dirais que l'organisation des lieux là-bas ne simplifie pas les choses. Donc je vous signale quand même que la réorganisation des extérieurs, dont on parle depuis quasiment, disons, 2015, hein, est une nécessité. Le maître d'œuvre pour réorganiser les extérieurs a été désigné le 3 septembre. Alors ça n'avait rien à voir avec les événements. C'était prévu, la consultation a eu lieu, etc. etc. Donc le maître d'œuvre a été désigné le 3 septembre et la première réunion avec lui est programmée le 5 octobre. Picardie Habitat remet en place des poteaux d'éclairage public qui étaient manquants là-bas, normalement pour la fin du mois, fin j'y veille. Il crée une antenne à la place d'un seul gardien, donc qui sera en place fin 2019, début 2020, donc il y aura au moins 2 personnes. Ils étudient en ce moment la mise en place de la vidéosurveillance, donc l'étude est en cours, et il y a des réunions, parce que j'y veille. Il y a aussi des travaux d'urgence qui sont en ce moment à l'étude pour corriger tout ça. Et quant au Moloch, il va y avoir un retrait complet de tout ça, puisque de toute façon, c'est ce qui était prévu dans la réorganisation. On ne laissait pas des Molochs en place, ils sont particulièrement mal situés depuis longtemps. Donc là, ils vont être retirés, tout va être rebouché. Pour l'instant, ils ont des poubelles normales, je dirais, qui ont une capacité, mais normale. Et tout ça va être réorganisé avec, en particulier, avec notamment l'arc, là, pour le coup, pour tout l'aspect déchets.
Et, excusez-moi, le stock des encombrants ?
Comment ?
Et le stock des
encombrants ? Il va être retiré en même temps que... Il va être retiré en même temps. Oui.
Est-ce que l'électricité n'a pas joué un rôle
Que je sache, l'électricité n'a jamais commis d'incivilité.
Elle a
été effectivement remise, avec, en coordination avec la gendarmerie.
Qui a donné l'ordre ?
À moi.
Et pourquoi certains quartiers comme Dolagard, qu'il y a quand même du bordel avec...
On l'a remis...
Ils n'ont pas écouté ce que tu as dit.
On l'a remis en place sur le secteur. C'est moi. Le préfet n'est jamais intervenu dans ces affaires-là.
C'est tout ce que je voulais savoir.
Voilà. Le préfet n'est pas intervenu. Nous, à notre niveau, alors je disais qu'effectivement, nous avons rallumé la lumière dans le secteur la nuit. Ce qui n'a d'ailleurs pas empêché les violences de vendredi soir, entre individus, voilà.
Oui, mais il y a eu quand même des interpellations depuis.
Oui.
Il y a eu un blessé vendredi, c'est ça ?
Comment ?
Il y a eu un blessé vendredi, c'est ça ?
Oui, enfin, il y a eu un blessé, oui, il y a eu un blessé, oui. Oui, enfin, on n'est pas dans... Non, mais blessé, ça veut dire...
Dans les méchants, peu importe, c'est... enfin, il y a eu un blessé, quoi, en l'occurrence, c'est ça.
Il y a eu un blessé léger, oui.
Oui.
Bah, c'est inadmissible, hein, on va pas...
Depuis le temps que ça se prend, oui, qu'il n'y a qu'un blessé des yeux, je trouve qu'on en sort.
Toujours les mêmes... Bon, voilà. Bon, on a pris un arrêté pour interdire la consommation d'alcool entre 16h et 5h du matin. C'était une action en coordination, évidemment, avec la gendarmerie, parce qu'on travaille, évidemment, en circuit serré avec eux. Ce que je dirais, c'est que, de toute façon, il n'est pas question de laisser faire. Clairement, il y a un certain nombre d'individus qui n'ont aucune limite. En outre, il crée un climat de crainte, de peur, voire de terreur auprès des habitants qui se situent à proximité pour éviter les plaintes. Probablement, et le mot probablement est faible, pour dissimuler d'autres trafics.
Et pourquoi la réunion a été annulée hier ?
C'est une réunion organisée par Picardie Habitat. Il leur manquait du personnel, il y a une personne qui a manqué, donc ils l'ont annulée. Voilà, mais... Comment ?
Parce qu'il y avait des... Moi, je connais des gens qui y habitent ou qui subissent tous les jours. Hein. Il y avait eu...
Elle, Jean-Claude, elle a été annulée.
Ouais, elle a été annulée, parce que de toute façon, il n'y aurait personne qui aurait été.
Elle a été annulée.
Elle avait filmé les gens qui y allaient pour dénoncer, pour continuer ce brin de violence. Donc, à mon avis, tant qu'on ne fera pas de la violence à de la violence, moi, j'aurais rentré dans l'art une bonne fois pour toutes, et puis c'est bon, quoi, tout le monde... derrière les barreaux, 4-5 ans, mais pas 6 mois, quoi.
Enfin, bon, voilà.
On sait qui c'est, en plus. On sait qui c'est.
Je rappelle, je suis tout à fait d'accord avec ça. On sait qui c'est. Il y a un noyau de personnes, on sait que ça se trouve à l'intérieur.
Bah, si
moi, je ne suis pas capable de dire qui est venu faire une tentative d'incendie chez moi.
Eh ben, on prend.
Bon, ça m'a valu le fait d'être invité voir le ministre des collectivités locales. À cette occasion-là, je lui ai remis une lettre. Donc voilà, vous en prenez un exemplaire. Voilà. Mais enfin, ce que je disais en conclusion, c'est que ça n'a que trop duré, cette affaire-là. Maintenant, il n'est pas question de laisser faire, et il faut mettre fin à tout ça.
Et pourquoi, pendant la réserverie, on va demander des renforts supplémentaires pour calmer le jeu? Quand M. Castaner est arrivé ici, il avait toute une armée de soldats avec lui pour tabasser 4-5 gilets jaunes. Moi, ça me fait flipper, hein. Moi, sans déconner, waouh!
Jean-Claude, les montées de violence en ce moment, on les voit partout. Je ne pense pas que ce soit la solution. On vient encore de voir dans l'agglo des violences sur un terrain de foot. Des violences sur un terrain de foot qui ont débouché sur des gens à l'hosto. Enfin, faut quand même le faire, quoi. On n'est pas d'accord sur un terrain de foot entre Auneuil et Venette, et ça se termine avec des gens à l'hôpital. Enfin,
C'est
voilà.
Pour ça qu'il faut arrêter de mal tout de suite, parce que là, on laisse gangréner quand même.
Alors, je suis désolé, mais... Ça, c'est vrai. Par contre, dans ce que tu as dit au début, il faut toujours prendre du recul. Tu dis, pourquoi la gendarmerie de Verberie n'a pas fait appel à des renforts supplémentaires? Là, tu ne sais pas.
Jean-Claude,
liberté, égalité, fraternité.
Jean-Claude, tu sais bien qu'on est obligé de faire avec la loi.
C'est pas normal, on sait qui c'est.
La loi nous dit que tu ne peux pas prendre quelqu'un si tu prends pas le doigt dans cette confiture. Mais ces gens-là, ils sont suffisamment malins pour ne pas se faire prendre là sur le
fait.
Mais si tu n'as pas la preuve, eh bien la loi ne peut pas être appliquée. Il faut la preuve.
C'est trouver des preuves par d'autres moyens.
Michel, est-ce que c'est normal? Une question, est-ce que c'est normal qu'il y a des gens de ce quartier, qu'on dit aux gendarmes, il va y avoir un mort, les gendarmes ont répondu, pas vu, pas pris. Est-ce que c'est normal? C'est normal ou pas?
Moi, j'ai pas ce témoignage-là.
Non, mais est-ce que c'est normal?
Et on n'en sait rien,
je n'ai pas ce témoignage-là.
On ne sait pas.
Je n'ai pas ce témoignage-là.
Mieux, c'était moi. J'étais là, pas vu, pas pris.
Je n'ai pas ce témoignage-là.
Non, mais...
Moi, personne n'est venu me dire ça.
Est-ce qu'il faut que les gens fassent justice eux-mêmes?
Moi, j'ai demandé. Pas.
Bah, vous savez pas ce qui se passe? Moi, je connais plein qui habitent là-bas. Ils m'ont dit, on va faire justice nous-mêmes. Il se passera quoi quand il y aura un mort? On va dire, on aurait dû. C'est vrai. Non, mais moi, ça me fait flipper. Hein. Parce que moi, j'ai des gens quand même là-bas qui habitent là-bas qui sont gentils, qui ne demandent rien, qui payent leur loyer, qui demandent rien. C'est pour ça que je suis venu au
réseau. Sur ces affaires, moi, je
comprends. Ça me fait chier de voir ces gens-là.
Je vais pas refaire le monde.
Galère pour 10 connards.
J'ai écrit une lettre au ministre, je lui ai remis un certain nombre.
Après vous, Michel.
Ben voilà. Je lui ai remis un certain nombre de propositions, parce que manifestement, aujourd'hui, les maires manquent d'outils.
Mais oui.
Donc, je lui ai remis un certain nombre de propositions. Je verrai bien ce qu'il lance. Enfin, je verrai bien. Nous verrons bien tous, parce que je n'ai pas été le seul à remettre des propositions. Donc, nous verrons bien ce qui en ressortira. Mais comme j'ai marqué dans la lettre que vous avez, en ce moment, les maires sont les spectateurs démunis de ces incivilités. Donc il s'agit de corriger rapidement le tir. J'espère qu'on va le faire. Ceci dit, quand récemment j'ai lu le rapport d'un commissaire de police à Saint-Denis, quand je vois... je suis quand même inquiet. Donc on se bat pour que justement les comportements qu'il peut y avoir dans ce genre d'endroit, là-bas, ça ne commence pas à se passer ici. Parce que tolérer les trafics, fermer les yeux devant,
C'est pas comme ça qu'on va régler le problème.
Juste une parenthèse, en fait, là, je me tais. J'ai un de mes petits neveux, il est avec une fille d'un commissaire divisionnaire de Lille.
Oui.
Mais, c'est juste une parenthèse.
Ouais, mais d'accord. Vas-y.
Mon petit neveu, il est d'origine kabyle. Yanni Merjan, d'accord ? Il a dit, moi, j'aime pas les Arabes. Qui a dit, le commissaire divisionnaire.
Oui.
Il a dit, il fait, ben, ouais, mais moi, je mange du porc. Ouais, mais il dit, mais moi, j'aime pas les Arabes. Parce que quand tu as la Coupe du Monde des Nations africaines...
Rien à voir.
Le... Non, mais je vous explique juste un truc. Juste un truc, après, vous êtes quoi, vous foutre de ma gueule, parce que j'ai parlé de gilet jaune. Bon. Bref, j'ai été à des manifs, donc vous voyez ce que c'est. Il dit, ouais, mais je m'en fous, moi, je mange du porc, donc je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut. Il dit, ouais, parce que quand nous, le préfet nous a dit, les Arabes, vous ne les touchez pas, interdiction, vous les laissez casser, broyer, faire ce qu'ils veulent. Non, mais c'est pas une reproche, c'est pas un racisme que je vous dis.
Non,
bien.
Non, non,
mais il a dit, par contre, les gilets jaunes, feu à volonté, carte blanche.
Oui, mais ça, tout non, ça. Mais
juste ça.
Oui, donc, là, tout ça, c'est des propos.
Et puis c'est parti.
Moi, je dis ce que je vois.
C'était juste une parenthèse.
Je dis ce dont je suis témoin. En tout cas, il est clair que chez nous, ce n'est pas un problème de racisme. Ce n'est pas non plus un problème de jeunes. C'est un problème de comportement d'un certain nombre de personnes.
Et on sait qui c'est. Il faut le rendre tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite.
On applique la loi. Voilà la réponse que je voulais faire sur ces affaires.
La justice française, elle marche à deux vitesses. Parce que même vous, j'ai même dit à Odile... Vous roulez, c'est marqué 30 km/h, vous roulez à 40. Paf, 90 euros, un point. Par contre, certains individus, on leur dit rien. Je vais vous dire un truc tout con aujourd'hui, vraiment tout con. J'avais une échelle sur mon camion, à la manouche. Un tas de branches dégueulasses, à la manouche, j'avais pas pris mon broyeur. Il y avait les gendarmes au feu rouge de Verberie. J'ai grillé le feu rouge en discutant avec mon gars qui était avec moi. Tu vois, mes gars, le feu était en passé rouge, j'étais à 35-40. Ils m'ont regardé comme ça. Ils auraient pu m'arrêter.
Ils ont
eu peur. Non, mais à mon avis, on dit en lui, c'est artisan machin ou artisan goud. Enfin bref, ils m'ont laissé passer. À mon avis, j'aurais été dans le, vraiment le bled. Oh, je suis pas
fini. Jean-Claude.
Je me serais fait chier. Faut... quand même.
Non, mais non. Ils m'ont laissé passer.
Oui, bon, il faut prendre du recul sur ces affaires-là.
J'ai eu cette chance-là parce que dans ma commune, je suis verbalisée systématiquement depuis 5 ans. Voilà, j'ai payé au moins 10 PV depuis que je suis élue. Et pourquoi ? Parce que les gens appellent l'agent de police pour lui dire que Madame Intel, elle est garée là. Bon, donc si tu veux, si on part sur ces sujets-là, on ne va pas en sortir.
Le modèle,
messieurs, dames.
Laissons la connerie à ceux qui la possèdent. Soyons intelligents.
Merci, Féro.
Juste une chose, dans notre quartier, on a une problématique d'une personne qui visiblement est sous tutelle, a priori, qui réside dans les immeubles un petit peu plus loin.
Oui.
Je vous invite effectivement à regarder très sérieusement ça parce que ça va finir très mal.
C'est regarder très sérieusement.
Parce que on a, moi je me permets, j'ai mon voisin, hein, j'ai pu assister à ça, hein, qui garde son calme depuis maintenant très longtemps, qui a informé la gendarmerie à plusieurs reprises, qui a demandé à pouvoir déposer plainte, ce qui a été refusé compte tenu de la situation de cette personne, ce qui d'ailleurs est, je trouve, pas normal. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'écrit en tant que tel face aux situations. Ce monsieur a agressé à plusieurs fois, bon, verbalement, mais au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête quand même, parce que, n'étant qu'homme, à un moment donné, ça va finir
par
avoir un retour.
D'abord,
et des coups aussi, maintenant. Donc,
Suis au courant de cette situation.
Je n'en veux pas.
La police municipale est au courant de cette situation, la gendarmerie aussi, et là, ils traitent le problème sérieusement. Voilà. Sur ce monsieur qui disjoncte un peu.
Plus qu'un peu.
Oui. Oui. Enfin, traiter ces affaires-là, c'est pas non plus très simple. Hein. Moi, j'ai à un endroit donné une personne, j'aimerais bien qu'elle soit vue par un médecin expert en psychiatrie. Vous m'expliquerez comment il faut faire.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des complications totales. Et là, pour le coup, heureusement que. Des voisins civilisés, des gens bien, justement, qui font tout pour éviter le conflit. Mais bon, visiblement, ce monsieur a déjà pris des coups quand même. Hein. Donc ça risque sincèrement de finir mal.
J'irai pas plus loin, mais.
Non,
voilà.
Mais je voulais juste alerter.
Ah, ben c'est très bien, hein. Il faut alerter de toute façon, parce qu'on n'est pas forcément au courant de tout.
C'est comme les déchets qui sont en haut de la côte de Berberie, où on a retrouvé l'entreprise du 95. Je vais déposer plainte. Ça va être transmis dans une gendarmerie du 95, etc., qui aura peut-être d'autres choses à faire. On verra bien comment ça se passe. Je rappelle quand même, dans ce cadre-là, que tous ceux qui font des travaux, donc normalement, peuvent exiger des gens qui font des travaux un certificat comme quoi tout a été déposé en déchetterie. Et ça, c'est leur responsabilité.
Par rapport à ça, on peut très bien délibérer, si tu me permets, pour appliquer des montants, puisque quand vous déposez plainte, il n'y a pas forcément de suite. Hein, et très souvent, il n'y a pas de suite d'ailleurs. Et donc, on peut très bien prendre une délibération ici pour fixer un montant, on va dire, prohibitif, de manière notamment à compenser la mise en déchetterie.
Ouais. Oui. C'est vraiment pas toujours très sympa à appliquer. Alors, et que qu'il faille le faire. Bon. Mais oui, mais il y a des tas de. Ok. Il faut quand même tomber. On arrive sur quelques cas à l'appliquer. Mais en général, même là, on a retrouvé par le biais de. Ça n'a pas été direct. C'est des choses indirectes. On a réussi à retrouver le nom et tout de l'entreprise. Mais c'est indirect. Donc, c'est-à-dire que du point de vue juridique, je sens bien qu'on n'est pas très, très, très costaud. Même si on a tout montré. On va de toute façon les appeler, ces gens-là. Hein, et on va leur dire.
On remet dans le camion de la commune, puis on va lui
livrer. Ouais, voilà. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord.
Retour à l'envoyeur.
Ah, je suis d'accord. Mais avec des enveloppes qui
est
bon,
mais
à chaque fois,
on va
perdre le tribunal.
Oui, je sais.
Ça et là, c'est dans le 95 à déposer.
Rien ne va ouais. Que vous avez trouvé une enveloppe dans les déchets que ça, prouve. Ça prouve que c'est eux qui les ont déposés.
D'ailleurs,
à chaque fois, on a perdu.
Et mais d'ailleurs, c'est, dans le fond de l'affaire, c'est vrai. Quoi. Un mec qui veut vous emmerder, il va déposer des déchets, prendre une enveloppe à votre nom et le mettre là-dedans. Qui récupérera dans votre badge jaune au passage que vous aurez mis. Voilà, il faut vraiment arriver à prendre les gens sur le fait. Et comme je le dis, la meilleure des méthodes, c'est quand même que les gens qui font faire des travaux, ils demandent parce qu'ils le paient en plus, mais qu'ils demandent en retour un certificat, comme quoi les choses ont bien été mises en déchetterie. La déchetterie fait des certificats pour ça.
Oui, c'est inclus dans la prestation.
Quand on appelle les gendarmes la nuit, ils ne se dérangent jamais.
Non, alors quand on appelle les gendarmes la nuit, on a affaire à Beauvais.
Un centre d'appel.
Et ensuite, ils renvoient l'appel sur les patrouilles qui sont en place dans un large secteur. Même. D'accord ? Donc là, ils interviennent. Ils ont effectivement des plans, toute une organisation. Mais s'ils sont déjà pris par. Moi, j'ai déjà eu le cas quand je les ai appelés. S'ils sont déjà pris par une affaire qui est importante, faut déjà qu'ils traitent l'affaire qui est importante.
Oui, ça, d'accord, mais là, on était 5 personnes à avoir téléphoné, chacun notre tour. Parce que les gens ont commencé leur soirée à 6h le soir, jusqu'à 6h30 le lendemain matin.
C'était une grande soirée.
Oui, alors, dormant les fenêtres ouvertes, on n'a pas dormi.
Alors, je crois que la police municipale, c'est pas la nuit, mais le lendemain, elle s'est déplacée. Elle y a été. Maintenant, quand on demande aussi, je dis dans un sens général, qu'il y ait une confrontation avec ces personnes-là, il faut accepter la confrontation. En présence de la police, bien sûr. Ça se valait une confrontation. Voilà.
Enfin, bientôt, je vous enverrai peut-être avec des photos, moi. Je ne serai pas là, mais je vous enverrai parce que vous allez à la gare. On va avoir un abattoir à ciel ouvert. Je vous en dis pas plus. Donc j'attends d'avoir mes photos et je vous enverrai ça.
Abattoir à nous,
c'est. Et là, je vais taper loin. Là, je vais taper très haut parce que là, oui, on va voir. Il y a des gens
qui préparent
pour dépouiller les animaux comme ça devant la vue de tout le monde. J' ai prévenu le propriétaire. Il m'a dit il est chez lui, il paye son loyer. Je dis non, vous êtes chez vous. Il vous paye un loyer. Vous ne faites rien ? Bon, non. D'accord. Je dis pas de problème. Et vous enverrez un courrier avec des photos.
Eh ben, j'attends le courrier.
Ah, bah oui, parce
que c'est. Dès que j'ai les photos. Que veux-tu que je te dise ?
Non, bah attendez, c'est bien grave. Hein. Ah, bah oui. Hein.
J'ai pas dit que c'était pas grave.
Nous, tous les soirs, vous mettez rue des Moulins, vous attendez 5 minutes, il y en a 10 qui se barrent et sont pleins. Et plein chez plein. Voilà.
Eh bien, tu me communiques.
La rue des Peupliers qui est ancienne rue de la gare.
Tu me communiques.
Là, non, route de Compiègne. Les radars, les mecs de l'ETF, ils sont à 90, ils font des cours. La fête du slip à la gare. Et ouais, on est de temps noir, mais moi je vois tout ça aussi. Je suis
Mais tu le vois parce que tu es sur place.
Mais oui. Bon. Et puis tous les
15 jours, j'y passe aussi, mais je n'ai pas tout le temps.
Qui sont balancés. 40 kilos de litière à chat. Alors, toi, c'est l'employé communal qui ramasse, toi, c'est moi qui ramasse. Mais je me lève à n'importe quelle heure. Il tire à chaud. Avec tout ce qui va avec.
Bon, je vous propose de clore le conseil municipal. Voilà. Merci. Merci à tous. Et puis ceux qui ont des infos, qui me les envoient.
Moi, je vous enverrai avec photo.
Y a-t-il des questions dans la salle?
Questions dans la salle?
Très bien. Bonne soirée, messieurs, dames.